Bonsoir, nous sommes mercredi, il est 21h et c'est l'heure du Dojo Bar.
Benoît.
Voilà, c'est le dojo bar qui commence. Pas bonsoir Méduse, puisque Méduse est à la bourre, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais bonsoir Antix,
bonsoir.
L'homme réverso, le spécialiste de Bayonetta, la personne qui encaisse le mieux la bière belge au monde. Oh. Hein, c'est l'exclusivité de ce soir.
Je sais pas si je l'encaisse le mieux, mais.
Et pour inaugurer ce dojo bar, voilà, je vais ouvrir une petite bouteille.
Bon, moi je serai à la flotte. Hein.
Moi je suis au cidre. Et je dois vous avouer que c'est très bon.
Ce sera à peu près sérieux ce soir alors. C'est bien.
Voilà, mais je préfère le cidre à la bière. Donc je vais peut-être choquer des gens, mais j'assume. Voilà, je suis un esprit libre, moi je préfère le cidre à la bière.
Ah, c'est une petite femme.
D'accord, merci. Alors, au programme de ce soir, puisque on n'est pas là que pour glander non plus, hein, on est aussi là pour faire une espèce d'émission un petit peu sérieuse. Au programme de ce soir, comme c'est bientôt Halloween et que, comme tous les ans, on essaie de faire une émission, on va dire, orientée jeux d'horreur, malheureusement... Ok, pas mal. Pas mal. Le rire maléfique.
Oui, tout... Seigneur des ténèbres.
C'est pas du tout lourd en plus. oui, on essaie de faire une émission un peu horreur. Malheureusement, cette année, ça tombe un peu mal puisque le jeu d'horreur d'Halloween sur console Nintendo, c'est Project Zero et malheureusement, il ne sort que vendredi.
Alors, si on avait été des journalistes total, on aurait pu télécharger la démo sur eShop, mais personne n'y a penché.
Alors, la démo sur eShop, moi, je la trouve pas. Hein. Enfin, je l'ai pas trouvée lundi.
Ah, ils l'ont peut-être...
Elle est... Pour moi, elle n'est pas encore sortie. Hein.
Ça se trouve, elle sort demain.
Si ça se trouve, elle sort demain. Je pense qu'elle... Enfin, pour moi, elle devait sortir demain ou après-demain. Enfin, si elle sort aujourd'hui, messieurs, vous pouvez nous le dire. Hein, hashtag dojobar ou dojobar@nintendojo.fr. Je serais très curieux de savoir, effectivement, si elle est sortie. Donc, voilà, on va faire une petite rétrospective Resident Evil parce que Resident Evil fait un petit peu l'actu depuis 2-3 mois. Il y a eu le re-remake HD du remake du premier, qui est sorti sur PS4, Xbox One et je crois sur PC, mais je suis pas sûr.
Il y a des chances.
Il y a de bonnes chances, de toute façon, une fois que tu l'as fait sur Xbox One, une fois que tu l'as fait sur PS4, je pense que le sortir sur PC, ça te coûte à peu près 2 jours de boulot. Et... pardon, excusez-moi, c'est le cidre.
Ouais, sympa.
C'est sympa. Donc on va parler un petit peu voilà de la série principale et on va dire des spin-offs un petit peu intéressants parce qu'il y a quand même tout un tas de spin-offs qui ont absolument aucun intérêt dans Resident Evil. Et en deuxième partie de l'émission, on parlera donc de la petite culotte de Mamie Janine dans Project Zero puisque nous avons été privés des petits dessous coquins alors que les Japonais ont droit à la tenue soupa sexy. Dans Project Zero. Affriolante, oui, qui d'ailleurs est en décalage complet avec le jeu, mais c'est...
On voit comme les tenues qu'on a eues en Europe, hein.
Oui, de toute façon, j'ai l'impression qu'au niveau des costumes, enfin, ça reste un costume alternatif, mais ça a fait quand même une petite, un petit buzz, on va dire, notamment outre-Atlantique, où il y a des clans qui se sont formés, ceux qui pensent qu'il aurait fallu le maintenir, ceux qui pensent qu'il aurait pas fallu, donc on... s'intéresser un petit peu au sujet.
Ce sera pas la première fois d'ailleurs que Nintendo censure un truc dans un jeu et ça fait légèrement débat entre guillemets. Mais je pense qu'on en reparlera à ce moment-là.
Mais voilà, on en reparlera à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses à dire. C'est assez symptomatique d'un certain nombre de choses. Et nous finirons évidemment avec la citation du jour qui nous viendra cette fois-ci d'Hideo Kojima. Hein. Une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire. Mais on va commencer tout de suite avec notre tour de table de l'actu qui va être donc extrêmement rapide puisque, Antix, je te laisse commencer.
On va faire des chiffres. Oui, des chiffres.
Oui, ça y est, sortez les mouchoirs, les gars, vous pouvez commencer à vous balader.
Alors, pas tant que ça, mais en gros, Tonton Kiki a fait sa première présentation des chiffres à nos amis actionnaires. Pour présenter un petit peu, je crois que c'est les ventes sur le semestre. Voilà, si je me fie à ce que
c'est ça,
dire.
C'est le semestre, oui. C'est le premier. Voilà. En fait, c'est la moitié de l'année fiscale Nintendo, puisque ça date de mars à août, en gros, enfin, septembre.
Ouais, c'est à peu près
ça. Voilà, l'idée, c'est le point à mi-parcours, en fait.
Globalement. Donc en gros, sur le premier semestre de 2015-2016, il s'est vendu 1, non, et ça a été distribué, pardon, 1 200 000 Wii U et 2 300 000 de Nintendo 3DS. Bon, j'arrondis parce que j'ai la flemme. C'est un petit peu en dessous, sachant que l'objectif annuel pour la Wii U c'est 3,4 millions et pour la 3DS c'est 2,6 millions. Donc on s'est un peu mal barré, on peut dire ce qu'il y a.
Bah, surtout
sachant
que
qu'il n'y a pas de Noël. Il y a Noël qui arrive, mais voilà, quoi, ça sera très très bon.
Il y a le gros jeu de la fin de l'année qui était Star Fox Zero ne sortira pas à la fin de l'année.
Il reste l'autre gros jeu de la fin de l'année, celui avec des robots.
Il reste Xenoblade, mais ça va probablement faire vendre au Japon, mais dans le reste du monde.
Bah, il est déjà sorti au Japon.
Ah, il est déjà sorti au Japon, donc ça ne fera pas vendre au Japon. Ah, mais je pensais qu'il sortait en. D'accord.
Il est sorti en avril au Japon. Il y a un test sur Gamecube pour ceux qui sont curieux. Bah, c'est intéressant, mais. Ça a l'air d'être un très bon jeu.
Bah, de toute façon, je pense qu'il y a suffisamment d'efforts qui sont mis dedans pour que ça passe, quoi.
Voilà. Juste pour faire le point, du coup, ça fait au niveau des ventes totales, ça fait un peu plus de 10,5 millions pour la Wii U et un peu plus de 54 millions pour la 3DS. Ce qui est moins bien que la GameCube et la Game Boy Advance respectivement. Enfin, le total de GameCube et Game Boy Advance. Qui était 21 millions et des 81 millions respectivement.
Ouais, mais c'était en toute fin de vie. Alors, tu vas me dire, la Wii U, elle en a plus pour très longtemps, je pense.
Elle en a plus pour très longtemps et là, on est quand même à sa troisième année hein, à 10 millions. Hein.
C'est vrai que ça commence à être un peu pénible, mais c'est surtout que Nintendo a beau sortir des bundles super intéressants, et ça je pense qu'il faut leur donner tout le crédit qu'ils méritent pour ça.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils notamment Nintendo of America et Nintendo for Europe se sont vraiment remués pour la vente de la console, il n'y a pas de problème, ils savent que ça va être compliqué, mais ils se sont quand même accrochés pour la sortir, pour la vendre, pour y aller quoi. Après, je sais pas si ça va payer. Je pense que le bundle Mario Kart 8 plus Splatoon, c'est quand même une sacrée affaire. C'est pas donné, mais je veux dire, globalement, ça te fait quand même un très très beau pack. Et c'est vrai qu'à côté de ça, les packs PS4 et les packs Xbox One, ils sont quand même pas super sexy.
Voilà, et t'as des baisses de prix de 50€, ce qui est pas énorme pour la fin de l'année. Pour la 3DS, c'est quand même un contexte différent où maintenant, la cible principale des consoles portables, elle est beaucoup sur smartphone. Même si c'est des bonnes ventes hein, par rapport à la Vita par exemple, c'est quand même en dessous de ce que fait la PSP par exemple. C'est même moins bon que la PSP. Et après pour la Wii U, on connaît l'histoire quoi. Il n'y a pas grand chose à rajouter. D'ailleurs, on parlait de Splatoon. Alors ils ont aussi dévoilé le chiffre, les distributions je pense, plus que les chiffres de vente de quelques-uns des jeux qui sont sortis pendant le. Donc depuis début avril. Donc Splatoon, il a entendu 2,5 millions à peu près depuis le lancement du jeu.
Ce qui fait un score tout à fait honorable pour une machine. Enfin, ça veut dire qu'il y a quand même une Wii U sur 4, un possesseur de Wii U sur 4 qui a Splatoon, c'est quand même vraiment pas grave.
Splatoon n'a toujours pas été vendu en bundle avec la console à l'heure actuelle. Et à titre de comparaison, Pikmin 1 sur GameCube, c'était moins de 2 millions. Le premier épisode.
Oui, tout à fait.
Bon, pour rester sur une nouvelle licence, on va dire, fait par un studio interne Nintendo. Super Mario Maker, lui, c'est 1,88 millions depuis le lancement. Donc, lancement en septembre, quand même. À peine un mois.
Ça va être un des gros succès de l'année.
Sachant qu'il y a une mise à jour qui arrive aujourd'hui, je crois, avec des checkpoints.
Ça va devenir vachement utile, ça.
Ouais. Et dernier jeu présenté, le spin-off d'Animal Crossing, le Happy Home Designer, qui est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires.
Putain, alors que ce jeu est quand même. Ça prouve bien quand même qu'on peut appeler n'importe quoi Animal Crossing et que ça se vendra quoi.
On verra avec le Amiibo Festival. Après, moi je trouve que le concept de Happy Home Designer est vraiment sympa.
C'est sur la durée que ça va être limité de toute façon.
Oui, non, l'idée est intéressante. Je pense que ça plaira à des joueurs d'Animal Crossing, mais je sais plus combien il est vendu. Mais moi, c'est le genre de truc que j'aurais vu en démat quoi. Un petit DLC à 15€ pour faire plaisir aux sacs à dos décorer les maisons Animal Crossing, mais.
Ouais, enfin ça reste quand même du, je veux dire du coffee table fun quoi. C'est-à-dire effectivement un jeu qui c'est effectivement le genre de jeu que je pense ne mérite pas forcément une sortie boîte parce qu'on est quand même plus proche, on va dire, de l'application de gestion que du véritable jeu.
Public d'Animal Crossing, vaut mieux le sortir en boîte. ça reste quand même grand public, oui, ça va pas forcément sur l'eShop. En faire un des gros jeux de fin d'année sur 3DS, c'est un peu plus discutable. En même temps, je sais plus ce qui sort à la fin de l'année sur 3DS.
Ben, dans mon souvenir, plus grand chose maintenant.
Ben ouais, parce que Fire Emblem c'est l'année prochaine.
Ben, Fire Emblem c'est l'année prochaine. Là, comme ça, en me grattant la tête, si, il y a Chibi Robo.
Ah, il y a Zelda qui est sorti.
Oui, il y a quand même Triforce Heroes. Je sais pas, il y a quand même.
C'est tout, hein.
Mais c'est déjà pas mal, quoi. Je veux dire, la 3DS, c'est quand même. Je crois que c'est la console portable pour laquelle j'ai pour l'instant acheté le plus de jeux, alors que pourtant j'en ai eu des Game Boy et des Game Boy Advance. Il y a quand même un paquet de bons jeux qui sont sortis, y compris des jeux qui sont sortis dans un anonymat
le plus total
et qui sont quand même de très très bons jeux et qui sont très rigolos. Donc je ne sais pas, ce que je me pose moi comme question par rapport aux chiffres de vente, par rapport aux objectifs et ainsi de suite, c'est combien de temps encore Nintendo va maintenir la 3DS sous respirateur.
Quand tu vois les jeux qui sont prévus, le prochain gros jeu c'est le Fire Emblem Fates, donc déjà sorti au Japon en plus, donc ça fait ça en moins. Côté Nintendo, je parle, hein, mais après le reste, on a le spin-off de Zelda qui est sorti, tu vas avoir les spin-off de Metroid si Nintendo décide de les sortir.
Ouais, ce qui est peut-être
vu leur popularité actuelle.
C'est peut-être mal engagé, hein.
Il ferait mieux de les renommer. Ça passera mieux. Mais voilà, donc c'est. Pour la 3DS, j'avoue qu'on en est un peu près là. Il y a encore moins. Enfin, je trouve qu'en niveau jeu, il y a encore moins de visibilité que la Wii U, quoi.
En même temps, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'on a dû tenir à peu près le même discours l'année dernière, à peu près à la même période de l'année. C'était plus vers le mois de décembre, où on s'est dit putain, mais sur 3DS, on sait pas ce qui va sortir. Et finalement, Triforce Heroes, enfin voilà, à chaque fois, on se fait surprendre. Je trouve que c'est surtout vrai sur 3DS. Où chaque année on se dit bon de toute façon il y a bien un moment où elle va mourir cette console et puis finalement non, enfin il y a des débouchés, il y a des développeurs qui y croient, il y a des mecs qui sortent des jeux et voilà. As oublié la très grosse sortie de cette année, Sonic Boom Fire and Ice.
Ah c'est vrai que tu l'as testé en juin.
Ouais, je suis très content.
Ils l'ont pas repoussé à 2016 hein?
Il me semble que oui, enfin
ouais, bon. Voilà. Non, mais moi, franchement, la 3DS, on verra quand on fera un bilan un jour, mais moi, c'est vrai que passé l'année 2013, j'étais beaucoup moins emballé. Bon, après 2014, c'était un peu la dèche niveau thune pour moi, mais c'est vrai que depuis un an et demi, deux ans, la 3DS, je ne m'en sers plus trop. Hein.
Bah après, moi, c'est vrai que j'ai tendance à y jouer de plus en plus, parce que je suis de plus en plus pas devant ma télé quand je joue. Et c'est vrai que j'ai re-récupéré des... Enfin, je pense que j'aurais jamais été capable de refinir Ocarina of Time ou Majora's Mask en étant assis devant ma télé.
Ouais, de toute façon, les versions les plus jouables maintenant sont sur console portable. Après, moi, je suis encore à premier modèle de 3DS, peut-être avec une New 3DS où je serais peut-être un peu plus confort. Mais de toute façon, je pense que le dernier jeu que je jouerai dessus, ce sera Fire Emblem Fates, sauf s'il y a autre chose d'un peu plus intéressant qui sort entre-temps et qui est annoncé, quoi.
Ouais, c'est bien possible, mais c'est vrai que la 3DS, ça fait quand même plus d'un an et demi qu'on dit que c'est en train de s'essouffler et qu'on n'a pas de visibilité, machin, et elle est toujours là, il y a toujours des bons jeux qui sortent. Je vois pas de raison pour laquelle ça s'arrêterait. C'est un peu con de dire ça, mais je vois pas de raison pour laquelle ça s'arrêterait.
Ça fera 5 ans l'année prochaine, hein, quand même.
Bah, ça commence à faire, hein.
Ça fait déjà 5 ans.
Une belle durée de vie, hein.
Ouais. La Game Boy Advance, ça va être plus longtemps.
Voilà, je vais enchaîner sur un petit exploit qui a eu lieu cette semaine. Il y a un runner dont je suis désolé, j'ai complètement oublié le nom parce que malheureusement je l'ai pas noté sur mon petit papier. Donc je suis vraiment désolé.
Je peux juste terminer.
Ah pardon, excuse-moi.
Donc en fin de réunion, je peux juste rajouter un petit truc. En fin de réunion, Kishima a dit qu'on aurait un Nintendo Direct avant la fin de l'année. Un dernier.
Oui, en 2015. C'était officiel qu'on aurait un dernier Nintendo Direct.
Voilà.
Pas présenté par qui, sous quel format, on sait pas encore.
Bah, je me souviens que sur le.
Je pense que ce sera la surprise.
Sur début 2015, c'était quelqu'un d'autre que Iwata qui présentait déjà au Japon. Alors je sais pas ce que ça va donner pour l'international, mais déjà au Japon, c'était plus Iwata qui présentait sur toute la durée comme avant.
Il a juste fait une petite apparition.
Ouais, voilà, bah, c'était un petit jeune. Bon, on verra ce que ça va donner de ce côté-là.
De toute façon, on verra ce que ça va donner. Du coup, j'enchaîne très rapidement. Donc, y a un runner qui vient de finir Ocarina of Time sur N64, donc sur le hardware original, les yeux bandés de A à Z.
100% ou il utilise les raccourcis
100%, il n'y a pas de méthode de speedrun, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de... Il y a pas entre guillemets de triche, en tout cas de ce que j'ai compris, j'ai pas regardé. Il y a 103 heures de run. C'est pas un single segment. Hein,
ouais.
C'est...
ouais, non, j'espère pour lui.
Il y a 103 heures de run. Les trois, enfin, battre Ganondorf dans la tour du destin, enfin le dernier truc là, c'est déjà 3 heures pour arriver à le finir.
Je pense même pas que ce soit la partie la plus dure parce que les jeux d'archerie ou de viser avec le lance-graine. Ça doit être horrible.
Ça doit être horrible, surtout que le mec est obligé de tout faire au son. Alors c'est vrai qu'il y a des,
Punch-Out quoi.
Bah voilà, il y a des jeux, c'est ce que j'allais citer, il y a des jeux comme Punch-Out qui se prêtent finalement relativement bien au run aveugle dans la mesure où tu n'as pas besoin finalement de te placer dans l'espace. Tu as un point fixe et tout ce que tu dois c'est esquiver et les indices sont autant sonores qu'auditifs. Sonore qu'auditif, ça voulait vraiment rien dire. Putain, ça y est, le cidre commence à me monter à la tête.
Mon dieu, on a perdu Mortal.
Voilà, mais donc effectivement, c'est pas du tout un jeu qui s'y prête. Je ne sais pas comment est venue l'idée à ce mec de se dire je vais faire l'intégralité du jeu les yeux bandés.
J'ai un beau challenge. Hein.
C'est un challenge absolument délirant, exceptionnel.
Déjà, tu vois, le temps qu'il a mis 103 heures. Je pense que Ocarina of Time, pour le finir, c'est quand tu le connais, c'est une quinzaine d'heures.
Quand tu le connais bien, oui, tu peux peut-être quand même descendre connais, un petit peu en dessous. Hein, mais...
Moi, je l'avais refait en faisant des sessions d'une heure et demie sur une dizaine de jours, donc j'estime que c'est à peu près ça. Entre 10 et 15 heures, mais 103 heures, ça prouve que le mec a... Même si c'est du 100%, ça prouve quand même que le mec a bien galéré sur certains passages. Et... C'est une belle réussite, je trouve. Hein. Même si c'est assez très hardcore comme défi, quoi.
Effectivement, c'est super hardcore. Je sais vraiment pas comment enfin, je sais que les speedrunners, de manière générale, considèrent qu'ils vivent, entre guillemets, pour une espèce de discipline qui ressemble beaucoup à de l'athlétisme. C'est-à-dire où, finalement, tu te bats contre toi-même. Contre le jeu, contre toi-même, ça ressemble beaucoup à des sports comme du golf ou de l'athlétisme dans lequel tu te bats pas forcément contre les autres, contre un adversaire, tu te bats vraiment contre la piste.
Donc contre les limites...
Contre les limites du système ou les limites du jeu. Là, je trouve que l'exemple est quand même un peu extrême. Je te dis, tu peux regarder, tu peux t'amuser à regarder la fin quand il arrive à battre Ganon à la toute fin. Voilà, c'est 3 heures juste sur cette partie-là. Et donc, c'est 3 heures à suivre Zelda. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que le mec a quand même mis au point. On en voit quelques-unes, d'ailleurs, dans cette dernière portion de jeu. C'est pour ça que ça peut être intéressant de la regarder, même si c'est effectivement un peu long. Il a mis au point un certain nombre de techniques qui lui permettent de se recadrer, de revenir, d'être certain d'avancer dans la bonne direction. C'est assez impressionnant. Par exemple, sur cette partie-là, il y a Zelda, tu sais, qui te précède de quelques mètres à chaque fois.
Ouais.
Donc, le mec avance. De temps en temps, il envoie une noix mojo. Si la noix mojo explose, il sait que le sol est devant lui. Si elle explose pas, il sait qu'il y a du vide devant lui. De temps en temps, il va aller cadrer la princesse pour être sûr de revenir en fait sur le droit chemin. C'est quand même des méthodes qui sont assez... Je sais pas, je trouve ça assez craqué. Le mec se repère au son que fait Navi quand elle va aller vers la princesse justement pour... Voilà, il se dit, tiens, ça y est, elle est allée vers la princesse, j'appuie sur Z, je me recadre. C'est quand même... Enfin voilà, c'est assez craqué.
Et je suis assez curieux de lire toutes les stratégies que le mec a prévues, sans pas regarder le truc, parce que 103 heures, c'est très très long. Et je pense que ce serait même un petit peu chiant au bout d'un moment. Mais je serais assez curieux de savoir c'est quoi vraiment toutes les stratégies qu'il a mis en place pour certains passages. Genre le temple de l'ombre...
Mais horrible. Typiquement, c'est le genre de truc, je ne sais pas... J'ai pas vu cette portion-là, je ne sais pas. Alors, peut-être qu'il l'a pas faite, hein, peut-être qu'il a quand même zappé quelques trucs.
Bah, s'il l'a fait à 100%, c'est-à-dire qu'il a tous les médaillons, donc il a fini le temple de l'ombre.
Ouais, bah, c'est ce qui m'a bien semblé, moi. Après, est-ce qu'il a utilisé une astuce qui permet... Mais de toute façon, même s'il avait utilisé une astuce, il lui faut au moins le temple... Il lui faut au moins le médaillon de l'ombre et le médaillon... Enfin, il lui faut les deux derniers médaillons, de toute
façon. Le médaillon
façon.
De l'ombre et de l'esprit. Mais en voilà. Speedrun, ils ont une stratégie pour... en faisant bugger avec des bouteilles, remplacer les
oui,
bouteilles par les médaillons.
Oui, c'est le Reverse Bottle Adventure, mais voilà. Le Reverse Bottle Adventure, ça exige quand même de faire des bugs qui sont...
Qui sont assez techniques.
Qui sont très très techniques, et je vois difficilement comment le mec peut le faire les yeux bandés.
Voilà, mais j'ai jeté un coup d'œil, c'est un résumé ou un truc explicatif pour au moins les phases générales.
Mais voilà, je serais effectivement très très curieux de lire les astuces et les stratégies que le mec a développées, parce que je pense que le run en lui-même fait 103 heures. À mon avis, la préparation doit être encore pire.
Je serais pas surpris qu'en fait, au niveau de son run, il ait aussi pris le temps de préparer ses stratégies à chaque segment, tu vois. Enfin, qu'il ait...
Oui, je serais. De toute façon, c'est du multisegment. Hein. Ça veut dire qu'il y a de toute façon des portions de jeu qu'il a dû recommencer. 103 heures, c'est pas 103 heures mis de bout à bout. Hein. C'est 103 heures échec compris.
Ouais.
Donc, je pense que de toute façon, il y a énormément d'endroits où il a dû recommencer quelques dizaines de fois avant d'arriver à trouver la bonne stratégie. Après, ça implique aussi une connaissance du jeu qui est, je pense, hors de portée d'un être humain normal. Même les gens qui connaissent très 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 bien Ocarina of Time auront, à mon avis, énormément de mal à refaire la même chose. De ce que j'ai vu, moi, il y a quand même assez peu de bugs exploités. En tout cas, j'ai pas l'impression. Pour une raison assez simple, hein, c'est que il y a des bugs où les repères pour les déclencher sont exclusivement visuels. Donc sauf si le mec est un monstre de synchronisation, je vois pas comment il peut faire.
C'est un bel exploit. On voit qu'il y a des gens qui sont prêts à aller loin au niveau de justement de la, je dirais pas de la compétition, mais de l'effort physique, j'ai envie de dire. Au niveau du jeu vidéo, quoi. Bon, après, je pense que personne le fera derrière. Hein.
Je suis pas sûr qu'il y aura une compétition, mais c'est vrai que ça reste un très bel exploit, c'est un exploit à saluer, et c'est pour ça que je voulais aussi en parler. Ça fait quand même partie des trucs où on verra, à mon avis, pas ça tous les jours.
Pour ceux qui sont curieux, moi je conseille quand même beaucoup de regarder intégralement le run de Super Punch-Out qu'ils avaient fait les yeux bandés à la JDQ.
Punch-Out, ils l'ont fait les yeux bandés. Je sais pas s'ils ont fait Super Punch-Out. Punch-Out, j'en suis certain.
J'avais vu un des deux. Là où c'est vraiment impressionnant, c'est que le mec a perdu un seul match dans tout le run, en fait.
Il me semble que c'est contre Mr. Dream, donc le dernier.
Ouais, c'est ça. Je sais plus. Moi, je crois que j'avais vu le super. À mon avis, ils ont dû en faire un. Et ils ont fait l'autre à un autre moment.
Ils ont peut-être fait l'autre. Ouais, c'est possible.
Je pense qu'ils ont fait les deux.
Non, mais ça reste un jeu qui s'adapte quand même assez bien. Ça, c'est comme si un mec te disait qu'il a réussi à finir SimCity sur Super NES les yeux bandés. Je veux dire, ça n'a pas de sens, quoi.
Ah ouais, ça n'a vraiment aucun. Mais ouais, dans Punch-Out, c'est assez incroyable, parce que le mec garde quand même un très très bon niveau de jeu, sans rien voir, quoi.
Ça reste impressionnant. J'espère que ça inspirera d'autres gens qui essaieront éventuellement de faire des choses de ce type-là. Je pense qu'il y a des jeux qui se prêtent vraiment bien à ça. Et ça fait quand même quelque chose d'assez rigolo à regarder et à suivre de toute façon.
Ouais, c'est une belle discipline.
Nous allons faire une première petite pause musicale parce qu'on est déjà un petit peu à la bourre.
On va encore réussir à faire 2 heures d'émission.
On va encore réussir à faire 2 heures d'émission alors qu'on avait dit qu'on essaierait de ne pas faire 2 heures d'émission parce qu'on était que deux. Nous allons donc écouter la musique du premier niveau de Super Turrican sur Super NES. Alors ça n'a rien à voir avec les jeux d'horreur, hein, mais j'avais envie d'écouter du Super Turrican.
Va falloir que tu m'expliques ce que t'as avec les musiques de jeux de shoot en ce moment. Hein.
C'est pas un shoot, c'est un run and gun. Mais voilà, Super Turrican est un jeu que j'affectionne particulièrement et je trouve que la musique est super dynamique.
Super Turrican même.
Si tu nous écoutes, ça envoie du pâté. Bref, on se retrouve dans un petit peu moins de 3 minutes. À tout de suite. voilà de retour.
Tour. Et toujours que deux.
Et toujours que deux. Je ne sais toujours pas ce que fait Méduse, donc Méduse, j'espère qu'il ne t'est rien arrivé. Tu nous manques. On a très envie de toi.
Le poulpe se serait-il emmêlé les passants en jouant à Splatoon?
Je ne sais pas. J'espère qu'il lui a rien arrivé de grave. C'est pas son genre de rater des trucs comme ça. Enfin, je dis ça. Il en a raté une l'an dernier parce qu'il avait décidé d'aller faire une sieste à 19h. ce qui est quand même. Enfin, voilà quoi. J'espère qu'il lui est pas arrivé la même chose. Je sais qu'il a beaucoup, beaucoup de travail en ce moment. Donc, Méduse, j'espère que tu t'es rien arrivé de grave.
Et que si tu nous entends, en tout cœur avec toi.
Et si tu nous entends, radine tes fesses. Arrête de déconner quoi.
Plutôt. Oui, plutôt, mais.
Voilà. Donc, Resident Evil. Donc, la maison diabolique. Je sais pas comment traduit ça, Reverso. Tiens, attends, pause Reverso.
On l'avait pas fait.
Non, parce que c'est trop facile.
Ah.
Resident Evil. Anglais, français, vas-y.
Je me souviens ce qu'il avait donné
Mal Resident.
Si on l'avait fait.
Si on l'avait fait, Mal Resident. Bon, alors, Mal Resident.
Le Mal Resident.
C'est naze, putain, c'est horrible. Ouais. Donc on revient dessus parce que ça fait un petit peu d'actualité en ce moment, et puis c'est un jeu d'horreur avec des épisodes très rigolos. Je suis pas certain que ça vaille le coup de parler du prédécesseur spirituel, parce que c'est aujourd'hui, c'est ce qui est plus ou moins considéré comme le prédécesseur spirituel, mais ça reste quand même un prédécesseur très éloigné, qui est Sweet Home.
C'était aussi de... Comment il s'appelait Mikami ?
Tout à fait, sur Famicom. Qui donc est effectivement un jeu de Mikami et qui étonnamment reprend énormément des codes qui existent dans Resident Evil, l'inventaire limité, les clés, le crochetage, le briquet pour tuer les ennemis. Enfin voilà, il y a beaucoup beaucoup d'éléments du jeu Famicom qui sont repris dans Resident Evil. C'est assez marrant de voir d'ailleurs que le Biohazard original emprunte tellement de trucs à ce jeu-là. Voilà, néanmoins la parenté est quand même pas évidente, à part effectivement même créateur et beaucoup d'idées qui se retrouvent. Voilà, ça me paraît un peu accessoire. Donc, notre petite rétrospective commence en 1996, avec un jeu que je qualifierais de jeu PlayStation, pas seulement parce qu'il est sorti sur PlayStation, parce qu'il est aussi sorti sur Saturn, mais parce que la maniabilité était hyper rigide, comme tous les jeux PlayStation. Alors, je sais pas ce que tu en retiendras, toi, du premier Resident Evil. Alors, ce que tu me disais en off, c'est que tu t'y es intéressé à partir du moment où t'as vu le remake sur GameCube. Ça a dû te faire un choc.
Pour être plus précis, quand Resident Evil est sorti, donc en 96, moi j'avais 6 ans, hein. Je suis né en 90. Je suis un petit jeune. Donc, Resident Evil, je pense que la première fois j'en ai vraiment entendu parler. Alors, c'est peut-être en voyant des images du 2 dans les magazines officiels Nintendo Special Solus de l'époque. Ils mettaient des artworks un peu sur les pages bien dégueulasses. Mais en fait, j'ai découvert donc la version PlayStation du premier. En tout cas, j'ai vu les visuels bien après avoir déjà pu comprendre. Enfin, avoir. Je sais plus si j'y avais déjà joué à l'époque. Mais en tout cas, j'ai connu la version GameCube avant la version PlayStation. Et alors, quand j'ai découvert la version PlayStation avec ces cinématiques jouées par des acteurs qu'ils ont sûrement dû trouver dans un restaurant familial dans une banlieue quelconque de Los Angeles.
Oui, je ne me suis jamais posé la question. Je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de retrouver les acteurs originaux. Je sais pas si les mecs se rendent compte à quel point c'est culte ce qu'ils ont fait, mais apparemment c'est pas si évident que ça, c'est des gens qui ont tous arrêté leur carrière ou presque.
Je sais même pas s'ils l'ont commencé. Non mais c'était assez intéressant de voir en tout cas la différence vraiment visuelle, à quel point le remake sur GameCube avait apporté une certaine déjà qualité donc, au niveau de l'ambiance sonore donc pour le jeu d'acteur. Et même au niveau visuel, en fait, parce que c'était vraiment littéralement le jour et la nuit. Quand tu revois les visuels de PlayStation et que tu mets les visuels GameCube à côté, sur PlayStation, t'as l'impression d'être en plein jour, quoi. C'est beau, les couleurs sont vives. Et sur puis, GameCube, les lumières sont noires, quoi.
Et puis, c'est ça. Enfin, moi, c'est ce que je trouve le plus impressionnant, c'est que, personnellement, alors, le premier Resident Evil, moi, je l'ai connu un peu au moment de sa sortie, ou presque. J'ai un copain qui avait simplement la démo sur PlayStation, puisque j'avais pas de PlayStation. On a dû jouer un peu à la démo, et moi je sais que ce qui m'avait rebuté énormément, c'était les contrôles rigides, et c'est aussi que j'ai dû jouer à la démo du 1 au moment de la sortie du 2. Alors, j'ai pas connu le 1 au moment où vraiment le truc était vraiment en pleine, on va dire, en plein boom. Et ce qui m'a choqué, c'est à quel point le 2, et même graphiquement, le 2 est quand même un sacré mise à niveau par rapport au 1. C'est-à-dire que les décors précalculés du 1 sur PlayStation, ils sont vraiment ignobles. Effectivement, comme tu disais, on se croirait en plein jour d'abord, tout le temps. C'est-à-dire que si effectivement les jeux d'ombre et de lumière qu'il y a sur la version GameCube, il y en a pas du tout sur la version PlayStation. Et étonnamment, sur Resident Evil 2, je trouve que tout ça, c'est beaucoup mieux foutu. Et que globalement, les décors sont de bien meilleure qualité, les rendus sont de meilleure qualité, les personnages sont de meilleure qualité, les textures sont de meilleure qualité. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un step énorme entre le 1 et le 2. Ce qui fait que moi, le 1, ça m'a toujours un peu... Enfin voilà, ça m'a toujours un peu rebuté.
Je serais pas surpris que le projet ait été pris un peu plus au sérieux par Capcom après la sortie du 1, en fait, qui a quand même été un bon succès. Et du coup, ils ont boosté un petit peu le... Enfin, ils ont dû laisser plus de temps pour améliorer les choses.
Ils ont clairement boosté le budget.
Sachant qu'en plus, c'était plus Mikami qui était à la réalisation du 2, c'était un des Platinum Games. Si c'est. Je sais quel des deux c'est par contre. Si c'est celui qui a fait Bayonetta ou l'actuel président de Platinum. C'est pas Mikami qui a fait le deuxième, réalisé le deuxième, je crois.
Je confirme, c'est pas Mikami qui a fait le deuxième.
Je crois que c'est Inaba.
C'est possible. J'ai pas le truc sous les yeux. Donc si t'as envie d'aller vérifier, je t'invite.
Écoute, tu me laisses 30 secondes, je te laisse meubler.
Mais y a pas de problème, je meuble. J'avais un copain, d'ailleurs le copain chez qui j'avais joué à Resident Evil à la démo, qui avait l'habitude de dire une fois qu'on
discuté. C'était Camilla, donc Monsieur Bayonetta.
C'est Monsieur Bayonetta. Ouais.
Voilà.
Et d'ailleurs, attends, c'est pas aussi Monsieur Devil May Cry?
Aussi.
Il me semble. Voilà, donc j'avais un copain avec qui m'avait fait, entre guillemets, découvrir Resident Evil de cette manière-là. Donc moi, j'avais pas du tout accroché parce que je trouvais que le gameplay était trop rigide et que, effectivement, d'un point de vue ambiance sonore visuelle, c'était quand même. C'était quand même pas terrible. Et j'ai recroisé ce mec quelques années plus tard et on parlait justement du remake GameCube. Et ce qu'il me disait, c'est que entre la version PlayStation et la version GameCube, c'est un petit peu comme si tu passais des jeudis de l'angoisse à du vrai cinéma d'horreur. La transition, c'était à peu près ça. C'est-à-dire que t'avais vraiment du B-movie jusqu'au bout des cinématiques avec des vrais mauvais acteurs réels d'un côté, et t'avais une vraie tentative de faire du presque cinéma avec la version GameCube. Ce qui est très étonnant, c'est que... Alors je sais pas si c'est dû à ça, mais le fait d'avoir des acteurs réels, je me demande si c'est pas justement un héritage, un rehashing d'un projet qui aurait dû sortir sur Sega CD, sur Mega CD ou sur 3DO, ou tu sais, sur toutes ces consoles du début des années 90, où il fallait absolument faire du full motion vidéo partout.
C'est possible.
Je me demande si c'est pas un héritage ou un recyclage de ça.
Aussi, c'était très à la mode, je crois, à l'époque, sur PC, de faire des full motion vidéo, comme on disait, avec des acteurs réels. Et qu'ils n'ont pas aussi voulu en profiter parce que c'était le support CD, c'était une nouvelle console et qu'il fallait faire un truc un peu impressionnant, quoi. Parce que je crois que c'est ce Resident Evil 1 est sorti avant Final Fantasy VII, quoi, de mémoire.
Ah merde, ça je savais pas.
Tu m'as dit 96 pour le
premier. Ah, normalement c'est 96. Alors c'est peut-être 96 au Japon, je pense que pour la localisation européenne, tout ça doit être un peu plus tard.
Alors Final Fantasy VII est sorti, parce que Final Fantasy VII pour moi c'est 97. Le 31 janvier 97, la sortie initiale de FF7.
Aux États-Unis donc.
Japon.
Japon.
Si c'est la sortie initiale, ça doit être Japon.
Voilà, mais bon, enfin, je sais pas si tu as d'autres. On a pratiquement pas parlé de gameplay concernant Resident Evil, mais c'est vrai, le gameplay est quand même pas.
Bon, on pourra vite faire le tour de ce qui reste, en tout cas, avec le gameplay initial, on va dire, de la série. Donc jusqu'au 0 sur GameCube. Parce qu'après, il y a eu le 3 qui se passe encore dans Raccoon City avec Jill Valentine et le Nemesis.
Ouais.
Donc le concept du jeu, c'était que le Nemesis poursuivait l'héroïne dans toute la ville.
Voilà, c'était une espèce de... Enfin, ça rajoutait un élément d'angoisse supplémentaire, parce qu'effectivement, si tu ne connaissais pas le truc, il arrivait toujours au pire moment possible. Enfin voilà, c'est un peu ça l'idée. Mais c'est vrai que ça faisait partie... Mais ta gueule, le chat! T'as dit, ça y est, mais c'est pas possible, ça! Putain, mais sans déconner, entre le chat et le cochon d'homme, moi, je sais pas comment je vais faire. Il y a des choses qui sont restées emblématiques. Je voudrais juste revenir sur Resident Evil 1.5, qui était le Resident Evil 2 qui devait être développé à l'origine, et qui a été avorté, et dont on a retrouvé un build bêta qui doit être fini à peu près à 70-80%. Il y a peu de temps, et donc on peut y jouer sur émulateur à cette version-là, qui est une version très très différente du Resident Evil 2 qu'on a eu par la suite. Resident Evil 2 qui est donc 98, et qui reprend finalement les mêmes bases de gameplay. Donc alors effectivement, beaucoup plus gros budget. Voilà, ne serait-ce que les rendus 3D sont quand même largement meilleurs. Ça fait partie, il y a aussi une qualité de réalisation qui est quand même nettement au-dessus. Le gameplay est toujours un peu bancal, ça reste toujours un simulateur de gestionnaire d'inventaire.
Hein. Ouais, et un simulateur de tracteur aussi.
Oui, c'est vrai que c'est aussi un simulateur de tank. On se pose toujours la même question, c'est-à-dire que le premier c'était un peu la simulation de joaillier fou. Là c'est comment fait le concierge du commissariat pour aller pisser. Parce que je suis désolé, mais la clé machin pour ouvrir le bidule truc, qui c'est quand même juste absolument pas cohérent, mais ça reste quand même la base de gameplay. Et ça sortira donc sur N64 un an plus tard. C'est la plus grosse cartouche jamais sortie sur ce support, et les mecs ont quand même réussi à faire tenir deux CD dans une seule cartouche.
Avec quand même beaucoup de voix compressées, de passages doublés. Et sachant que, ouais, en plus, le 2, au niveau en termes de scénario, c'était aussi... un peu plus ambitieux que le 1. Enfin, le 1 avait deux personnages.
Mais qui vivaient le même scénario.
Qui globalement vivaient le même scénario en parallèle, mais sans s'influencer. Et l'idée dans le 2, c'était que, en fonction de... Si tu commençais avec Claire ou avec Léon, quand tu joueras avec l'autre, t'auras des modifications. Donc en fait, le fait de commencer par un personnage et après faire l'autre, ça a une répercussion au niveau de la façon dont tu vas vivre le jeu. Et c'est pas juste une histoire de dire, quoi.
Voilà, ça reste quand même dans les très très grandes lignes le même jeu.
Oui, globalement, mais voilà, c'est les mêmes environnements, mais t'as des différences, je crois, au niveau du scénario, un truc comme ça.
Alors, il y a les boss que tu affrontes qui sont différents, il y a, on va dire, le cheminement global qui est un petit peu différent. Et en gros, le jeu est construit, t'as un scénario A et un scénario B. Et en fonction du personnage que tu prends, donc t'as Claire A, Claire B, Léon A, Léon B. Et voilà, en fonction du personnage avec lequel tu as fini le scénario A, tu peux finir le scénario B avec l'autre personnage. Et donc, c'est, voilà, les histoires sont complémentaires et entremêlées, c'est quand même relativement intéressant. Il commence à y avoir des personnages non-joueurs un petit peu intéressants aussi.
Tu auras des récurrents du style Ada Wong aussi, qu'on verra très souvent dans le reste de la série. Voilà, souvent quand Léon est dans le coin d'ailleurs.
C'est un petit peu le doublon.
C'est un peu sa copine.
Voilà. Resident Evil 3, je pense qu'on en parlera pas beaucoup parce que, enfin, je sais pas si tu y as joué. Je sais beaucoup de gens ont joué au 2. Le 3,
Le 3, j'en ai parlé vite fait, celui avec le Nemesis. Hein. Voilà. C'est surtout pour ça qu'on s'en souvient. Il est sorti sur GameCube.
Il est sorti sur GameCube.
Comme le 2.
Ils sont tous sortis sur GameCube.
Jusqu'au 4, mais oui.
Jusqu'au 4, mais je rappelle que je crois que le 2 est un des jeux les plus rares européens sur GameCube.
Ah, j'ai un pote qui l'a.
Et sur N64 aussi.
Ouais.
Pas évident à trouver dans les deux cas. Mmh. On va peut-être. Alors, il y a aussi Resident Evil Code Veronica qui est sorti sur GameCube. Donc, celui-là, c'était censé être le Resident Evil 3, mais comme Sony avait un accord d'exclusivité avec Capcom, finalement, c'est le Resident Evil Nemesis qui devait être un spin-off qui est sorti comme étant Resident Evil 3. Et entre guillemets, la suite. En fait, la vraie suite de Resident Evil 2, ça devait être Resident Evil Code Veronica. Et donc, celui-là devait être Resident Evil 3 tout court. Et étant donné l'accord qu'il y avait entre Sony et Capcom, Capcom a sorti Resident Evil Nemesis, qui devait être donc un spin-off, qui devait sortir sur PlayStation, et finalement sorti sous le nom Resident Evil 3 Nemesis, et Resident Evil 3, qui devait sortir sur Dreamcast, est sorti sous le nom Resident Evil Code Veronica.
D'accord, voilà. Je savais pas.
Un point intéressant. Un point intéressant.
Code Veronica, je crois que l'héroïne, c'était l'héroïne du 2, du coup, Claire.
Tout à fait. C'était Claire qui cherchait son frère. Et je sais pas s'il y avait un autre personnage. Tiens, ça m'est sorti de la tête.
Il me semble que tu joues que avec Claire, mais j'avoue que je saurais absolument pas te dire, là, pour le coup. Il me semble que c'est vraiment juste Claire, l'héroïne, dans celui-là.
Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est assez curieux aussi pour les gens qui aiment regarder ce genre de choses-là, vous pouvez regarder la version PC de Resident Evil et Code Veronica est quand même très très curieuse parce qu'en fait quand vous allez dans le menu configurer le clavier, il y a une manette de Dreamcast qui apparaît. Voilà.
Voilà.
Bien joué.
Et du coup, c'est à partir de là qu'on a eu les Resident Evil sur GameCube.
Tout à fait.
Donc d'abord avec le... le remake du 1.
Qui a été... je crois que c'est un journaliste français qui avait parlé de Rebirth, puisque c'était...
Ouais, c'est souvent comme ça qu'il est surnommé, ou Remake.
Ou Remake avec le RE en majuscule pour faire. Voilà.
Et après, il y a eu le dernier Resident Evil avec le gameplay à l'ancienne, c'était Resident Evil 0. Donc qui se passe avant, se passe un petit peu avant les événements du premier. Et là où la particularité, c'est que tu joues avec les deux personnages, mais en même temps.
Alors avec le système de partner zapping, c'est effectivement, il y a Cody et la gonzesse qui sert à rien dans Resident Evil 1.
Et quel, oui, voilà, et Cody qui ressemble quand même à Billy Crawford.
Ouais, voilà, enfin c'est assez ignoble son look. En plus, ce que j'adore, c'est que tout au long du jeu, il a sa menotte qui, tu sais, qui, il a juste plus que la menotte accrochée à une main, et il a ça qui pendouille, mais tout le jeu. C'est-à-dire que le mec s'est pas dit à un moment, j'en ai retiré une, je vais peut-être retirer l'autre. Non, le modèle du personnage est fait comme ça, donc de toute façon, il a son truc qui pendouille pendant tout le jeu.
Ah, il a son truc qui pendouille, bah bravo.
Ah bah oui, ah bah c'est bravo.
Ouais.
Alors, deux choses intéressantes sur Resident Evil 0 en termes de gameplay, parce que c'est vrai que... Enfin, finalement, Code Veronica a relativement peu innové dans le sens où... Enfin, ce qui innovait surtout, c'est qu'on avait un setup très très différent, dans le sens où c'était un camp militaire, enfin c'est plus le manoir, c'était... le machin,
voilà,
le truc.
Voilà, c'était pas Raccoon City, et ça voulait décrire, expliquer un peu plus toute l'histoire derrière la création du virus, je pense.
Oui, c'est ça.
C'est ça, il y avait toute une histoire sur le background de la série, de Umbrella surtout.
Et Resident Evil 0, donc il y a le partner zapping, et il y a un autre truc, c'est que tu n'as plus les fameux coffres communicants, ou pas. D'ailleurs, parce qu'il y a certains modes de jeu dans lesquels tu n'as pas de coffre communicant. Et donc, tu es obligé... Enfin, l'intégralité de la map devient un dépotoir. C'est-à-dire que tu vas faire des salles dans lesquelles tu vas aller lâcher plein d'objets, puis tu vas aller les transporter d'un truc à l'autre en faisant des allers-retours, parce que tu vas pas quand même lâcher toutes tes munitions comme ça. À l'origine, ça devait être un jeu N64, Resident Evil 0. On n'a pas encore retrouvé de bêta ou de build très très... mais à l'origine, ça devait être un jeu N64, une exclusivité N64. Et finalement, ça a terminé comme ça. C'est, comme tu disais, le dernier Resident Evil classique, c'est-à-dire avec les contrôles tank, les caméras fixes, les décors pré-rendus.
Les sauvegardes limitées aussi.
Sauvegardes limitées, le gameplay finalement très déterministe.
Très arcade.
Très lourd.
Non, alors pas arcade, parce que pour moi c'est vraiment l'opposé d'un gameplay arcade, dans le sens où un gameplay arcade tu prends très vite en main. Et Resident Evil.
Je pensais plus au côté rejouabilité, déterminisme.
Oui, voilà. Ça par contre, oui, effectivement, tout ce qui est rejouabilité, je crois que c'est un truc qui a beaucoup marqué, enfin qui est très important dans les premiers Resident Evil. Mais c'est surtout au niveau du gameplay. En fait, c'est ça qui a fait que j'ai jamais pu jouer plus d'une heure d'affilée au premier. C'est le. Je parlais de simulation de tracteur ou de simulation de tank, mais c'est pour moi,
c'est
ça,
un simulator.
C'est ça, c'est ton personnage. Waouh, c'est lourd. Et je crois qu'à l'époque, j'avais joué à Eternal Darkness, que je trouvais vachement plus maniable, quoi.
C'est-à-dire que, effectivement, c'est pour moi l'énorme défaut de Resident Evil 1, 2, 3, Code Veronica, Resident Evil 0. Donc, vraiment, ces 5 jeux-là, cette pentalogie-là. C'est le gameplay, enfin, c'est pas inintéressant comme gameplay au
c'est,
sens
c'est,
où...
C'est intéressant dans le sens où effectivement ça t'oblige à faire très attention à ce que tu fais.
Voilà. Ton inventaire, à gérer ton routing. Je pense que c'est des jeux qui sont super intéressants, par exemple à speedrunner, parce que justement tu as tout cet aspect optimisation de la route, optimisation des déplacements. Enfin, t'es vraiment obligé d'être très précis dans un gameplay très rigide, donc c'est super compliqué à faire. Maintenant, c'est sûr qu'en tant que joueur occasionnel, entre guillemets, c'est pas ça, quoi. Très difficile d'arriver à faire une partie de plus d'une heure sans avoir envie de balancer la manette.
C'est un jeu où si tu veux vraiment aller au bout avec la maniabilité, faut s'investir, quoi. C'est pour ça que j'ai du mal à dire que c'est un jeu d'arcade, dans le sens où j'ai quand même beaucoup de temps avant de comprendre la base du gameplay. Là, je parle même pas des subtilités, je parle vraiment de la base.
Ouais. Moi, je sais que j'ai fini le remake sur... le Resident Evil 1 sur GameCube. J'étais content de l'avoir fini. C'est-à-dire que j'en ai vraiment chié pour le finir, entre guillemets, même si j'ai pas mis tant de temps que ça, mais j'ai vraiment passé beaucoup de temps à perdre, à mourir, à machin, et puis surtout toujours sur des conneries. Par contre, c'est vrai que le 0, par exemple, je suis arrivé au disque 2 et j'ai fini par décrocher parce que... voilà.
Ouais.
Et le 2, j'ai dû faire une bonne partie du commissariat, mais j'ai jamais continué. Et je crois que le seul auquel j'ai pas joué plus de 5 minutes, ça devait être Code Veronica. Voilà.
D'accord.
Alors que pourtant, ça doit être probablement un des moins lourds, je dirais.
Je pense que c'est un des moins rigides, hein, en fait. Hein. Peut-être le remake l'est moins maintenant, mais Code Veronica, quand même, les derniers à être sortis, je pense que c'est déjà une époque où ils ont commencé à assouplir un petit peu le système de jeu pour éviter de perdre trop de monde, quoi.
Mais bon, la vraie révolution dans la série Resident Evil, elle viendra avec Resident Evil 4, qui est le jeu le moins exclusif sur GameCube du monde.
Voilà, alors que là, on pourra en parler très longtemps d'ailleurs de la gestation. Enfin, la gestation du 4 est assez intéressante, parce que tout à l'heure on parlait de Hideki Kamiya et de Devil May Cry. Il faut savoir que donc, Resident Evil 4 présentait parmi le Capcom 5, donc 5 jeux exclusifs GameCube, qui correspondra en fait à un jeu exclusif et qui était le moins bon. Un jeu qui s'appelle Projet Phoenix et qui ne verra jamais le jour.
Tout à fait.
J'aime beaucoup l'ironie. Et les trois jeux qui finiront par sortir sur PlayStation 2. Un peu après la version GameCube, certes.
Voilà, donc Beautiful Joe, Resident Evil 4...
Et Killer 7.
Et Killer 7 qui...
De Goichi Suda.
De Goichi Suda.
De Goichi, je sais plus dans quelle heure ça se dit.
Je ne sais plus.
Mais bon, voilà. Donc ça faisait partie du Capcom 5 et le Resident Evil 4 est le dernier à être sorti. Celui qui a eu la gestation la plus difficile, donc on savait dès le début que ce serait Léon qui serait le personnage principal, ce qui est probablement la seule chose qui n'a pas changé par rapport au premier trailer, je pense. Et on sait pas trop ce que sont devenus les différents prototypes. On sait qu'il y en a un qui a fini par devenir Devil May Cry.
C'est ce que disait Camilla, c'est qu'ils avaient commencé Devil May Cry comme étant un jeu Resident Evil et puis qu'à un moment ils se sont rendu compte que les combos le gameplay de Devil May Cry, ça collait pas du tout à ce qui se faisait en Resident Evil, où il y avait toujours du gameplay tank et du machin et du truc.
Et d'ailleurs, quand tu regardes le premier Devil May Cry et que tu compares au 4, je veux pas compter le DMC fait par les mecs de Ninja Theory, mais c'est le premier Devil May Cry, et tu sens encore le côté Resident Evil. Pour du beat them all, à l'heure actuelle, c'est un peu difficile à prendre en main, donc les caméras sont fixes. T'as des espèces de petites énigmes d'ailleurs quand tu ramasses les
objets. T'es plus en contrôle tank quand même. Hein.
T'es encore un peu tank. Enfin, quand t'as joué à Bayonetta, t'es en mode tank. Mais,
ouais, quand t'as joué à Bayonetta, mais parce que Bayonetta, c'est.
Voilà, mais même quand t'as
c'est
joué.
C'est la souplesse et la grâce.
Quand t'as joué au 3 ou au 4, qui seront déjà plus souples, le premier est assez tank. Est un peu plus lourd à prendre en main. Mais tu vois l'héritage des premiers Resident Evil. Soit dans l'aspect visuel, un peu l'espèce d'ambiance, parce que t'es encore dans un manoir, et le fait qu'il y ait encore des caméras fixes, quoi. Mais voilà, donc ça, un des premiers prototypes a donné Devil May Cry, en tout cas.
Et c'est vrai que le 4, on a vu énormément de versions, nous, tout au long des années où on l'a suivi, avant 2005. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait une version où Léon était poursuivi par une espèce de fantôme, avec un crochet dans un manoir, donc on savait pas trop ce que ça allait donner. Il y en a une où il était infecté, il y en a une où...
Bah d'ailleurs, le fait qu'il soit infecté, je crois qu'il est revenu dans le jeu principal, hein, à la fin.
Et ça finit par revenir à un moment dans le jeu principal, mais c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que la gestation du jeu a été très difficile, et on sait que les jeux qui mettent comme ça, qui passent par beaucoup de versions, par beaucoup de développeurs, par beaucoup de mains différentes, bah souvent, un développement chaotique, ça fait un jeu pas terrible. Et là, c'est tout le contraire, parce que ça a vraiment été une...
Ah bah c'est considéré comme un des meilleurs jeux de sa génération.
Ça a été une énorme claque dans la gueule, quoi.
Et pour tout ce qui est donc le TPS maintenant, qui est un genre qui est quand même très 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 prisé, pour le côté action et cinématographique, Resident Evil 4 a posé beaucoup de bases.
Bah, ne serait-ce qu'en termes de gameplay, voilà, aujourd'hui c'est toujours une référence. Il y a quelques trucs qui ont un petit peu moins bien vieilli, hein, on va être très clair là-dessus.
C'est encore un gameplay. Enfin, tu compares ça à Uncharted ou à Gears of War. Ou un Splatoon ? Non, ça se comptera pas. T'as encore ce gameplay un peu tank quand tu compares à des jeux plus récents. Quand tu compares aux Antévis de l'avant, par contre, c'est une souplesse incroyable, le 4. Hein.
Oui, mais après, c'est sûr que... Mais il y a eu quand même de l'inspiration. C'est-à-dire que c'est un des premiers jeux, si ce n'est le premier, avec cette espèce de caméra épaule très près de l'action.
Voilà, c'est ça. Il apportait ce genre de choses qui ne sont plus... Enfin, qui sont des standards maintenant dans ce genre de jeu, quoi.
Voilà, et en plus, c'est un jeu qui est... alors, tu vas pas aimer ça, mais c'est vrai que c'est quand même très, très, très arcade aussi, finalement.
Là, pour le coup, oui. Enfin, là,
alors, énormément plus.
Je serais plus d'accord que pour les premiers Resident Evil.
Énormément plus dans le sens où, effectivement, ça reste un jeu d'action. Et ça reste un jeu très très simple à comprendre.
D'ailleurs, t'avais un mode arcade dans celui-là qui s'appelait le mode mercenaire.
Oui, qui est carrément un mode arcade.
Ah bah lui, c'est tu rentres dans une zone, t'as des armes, tu dois ambuser le plus possible et tenir plus longtemps pour faire le meilleur score. Mais faut finir le jeu pour l'avoir.
Mais voilà, et c'est d'ailleurs un des modes intéressants. Enfin, je sais que j'ai un pote qui l'avait fini sur ma console en l'espace d'un week-end, le Resident Evil 4. C'est-à-dire qu'il a scotché comme une merde pendant je sais pas combien d'heures à faire des pauses, à aller faire autre chose, mais vraiment il a fini comme ça. Et je pense que le truc sur lequel il a passé le plus de temps, c'est pas vraiment le jeu principal en réalité, c'était le mode mercenaire. Parce que c'est super addictif.
Quand tu t'amuses, que tu comprends bien le gameplay du jeu, effectivement, tu peux y passer vraiment des heures, quoi. Parce que le gameplay s'y prête bien, et en plus, tu peux débloquer des personnages qui sont des boss dans le jeu, donc ça rend le truc assez sympa, en fait.
Voilà, et d'ailleurs, c'est un des premiers, tout l'assisted speedrun de Resident Evil 4, c'est fait en mode mercenary. Avec je sais plus quel personnage, je crois que c'était avec Wesker en mode mercenary, et le mec fait un score évidemment hallucinant, mais il utilise quasiment tous les bugs possibles dans le jeu surtout, et c'est quand même très 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 amusant à voir.
D'ailleurs, en parlant des tasses, moi j'avais vu celui de Metroid Prime sur GameCube, c'est hallucinant, hein. On dérive.
On parlera peut-être un jour du TAS. Ça me ferait plaisir de faire une émission un petit peu consacrée au speedrun et au TAS, parce que c'est vraiment des disciplines intéressantes. Pour la prochaine AGDQ, ouais, ça peut effectivement être une bonne idée.
Vu qu'on en a parlé assez souvent ici, en plus.
En plus, vu qu'on en a parlé assez souvent, ça pourrait être intéressant. Surtout que je vois bien 2-3 invités qui pourraient nous rejoindre pour en parler.
Donc pour venir sur Resident Evil 4, un des trucs aussi qui était important dans celui-là, c'était qu'on passait, je pense, 50% du jeu à se coltiner Ashley, qui est la fille du président des États-Unis.
C'est peut-être d'ailleurs le seul défaut du jeu, finalement.
Et donc, en fait, ce qui fait que le jeu est quasiment un mode accompagnement, je sais plus comment on dit déjà.
Escorte.
Escorte, voilà. Alors, moi, j'ai pas trouvé que c'était tant un défaut que ça. Parce qu'en fait, Ashley, c'est assez facile de la faire sortir du combat pour être tranquille. Genre, tu la fous dans une poubelle, c'est réglé.
C'est vrai que globalement, tu la fous dans une poubelle, c'est réglé.
Parce que les ennemis ont quand même une certaine tendance à plus t'attaquer toi qu'elle. Et elle est pas non plus, c'est pas non plus un boulet qui fonce dans le tas.
Ouais, c'est pas, oui, effectivement, parce qu'elle, finalement, elle te colle au train et
le seul problème,
c'est qu'elle se prend quand même régulièrement des coups, mais enfin, ça reste assez marginal.
Disons qu'il faut lui dire d'aller se cacher, quoi. Mais par exemple, quand tu veux tirer et qu'elle est devant toi, elle va se baisser. Donc c'est pas non plus un énorme boulet. Alors, par contre, après, que le personnage soit insupportable, ça c'est autre chose.
Mais je me rappelle, il y a quand même certains passages super marquants dans le 4. Il y a la statue géante de Salazar, qui est quand même un passage qui est juste... Enfin, moi, Resident Evil 4, ce que je retiens vraiment, c'est que c'est le jeu qui monte crescendo. C'est-à-dire que au fur et à mesure que tu joues, il est de plus en plus hallucinant.
Ah ouais, non, mais là, pour le coup, les endroits que tu visites...
Les
boss que t'affrontes,
Voilà, c'est la montée en puissance en permanence, tu n'as pas 30 secondes... Enfin, si, t'as des petits passages avec un peu de répit, par exemple le passage avec Ashley, où tu n'as que Ashley, il faut que tu te sauves dans une espèce de truc qui est presque fantomatique, enfin, t'as des passages un peu plus, on va dire, posés comme ça, mais je sais pas, tu débarques dans le village, déjà, tu grenades des mecs... Il y a le gars avec la tronçonneuse qui arrive, c'est la panique, tu butes tout le monde, tu continues, tout d'un coup, il y a les sœurs Tadbur qui te foncent dessus, c'est la nuit, les mecs qui commencent à avoir la tête qui explose avec des parasites, enfin, c'est le jeu qui est de plus en plus hallucinant.
Il y a un moment, t'as le troll de la mec qui débarque, et au bout d'un moment dans le jeu, t'en affrontes deux, en même temps.
Non mais voilà, mais c'est le truc où, effectivement, à un moment, je crois que c'était un peu vers la fin du feu, je me suis dit... Ah putain, il y a une double porte là, j'espère qu'il va pas sortir une Gatling. Et là, il y a un mec qui sort avec une Gatling. Et c'est vraiment ça tout le temps, quoi.
Ah non, mais en plus, dans la dernière partie du jeu, c'est là où il y avait le régénérateur qui est un monstre en fait.
Flippant.
Quand tu sais pas comment le tuer, tu lui pètes la tête, tu lui pètes un membre, il se régénère. Même quand tu sais, en fait, t'as pas envie de le voir.
T'as vraiment pas envie de le voir. Le dernier régénérateur du jeu, tu passes vraiment très au large en te disant il y a plein de munitions, machin, c'est pas grave. Je continue, j'ai pas envie de le voir.
En plus, je crois que le dernier, il en a deux points faibles à buter, pas un.
Ouais, non, mais c'est...
C'est le vrai fils de pute. Mais le jeu... Enfin, en tout cas, la montée en puissance du jeu, je pense que même en termes de montée en puissance, de mise en scène, de la montée en puissance, et de manière générale, d'ambition, ça a été un jeu extrêmement fort de la génération PS2 GameCube. qu'on a un peu une tendance à oublier quand même, parce que la série s'est un peu cassée la gueule depuis et que le jeu a vieilli aussi par rapport à des standards actuels, mais faut quand même pas oublier qu'à l'époque on était quoi, en 2005
2005, ouais.
T'as jamais vu ça quand tu jouais que sur. Enfin, quand t'avais joué à la PS2 depuis quelques années ou à la GameCube, t'avais jamais vu ça, quoi. T'as ce truc qui débarque.
Si le remake sur GameCube de Resident Evil nous a mis quand même une belle claque dans la gueule, parce que, alors certes, pas en termes de gameplay, mais en termes visuels,
en termes d'ambiance, c'est ouais, voilà. Alors ça, c'était un jeu de la génération d'avant. Ben voilà ce qu'on a fait sur une nouvelle console.
C'est exactement ça. Voilà, si celui-là t'a mis une claque dans la gueule, clairement Resident Evil 4 te met un coup de batte de baseball clouté dans la mouille, quoi. Moi j'ai pris une claque monumentale sur ce jeu, parce que je me dis voilà, en termes de gameplay, c'est ça qu'il faut faire, c'est par là qu'il faut aller. C'est l'action non-stop,
le jeu sait rendre la présence de l'action importante et te met la pression avec des missions qui sont quand même assez limitées.
C'est exactement ça.
Et des mecs avec des tronçonneuses qui te tuent en un coup. Bon, par contre, c'était un peu pute, mais...
Je trouve que ce jeu, s'il y a une énorme réussite de Resident Evil 4, c'est le fait que le jeu ne relâche jamais la pression.
Pour comparer à un TPS un peu actuel, donc j'ai fait Uncharted 2 il n'y a pas très longtemps, et dans ce jeu-là, j'ai jamais ressenti cette pression au combat. Parce que tu meurs souvent dans Uncharted, parce que ton personnage il est un peu en mousse, hein, faut dire ce qu'il y a. Mais j'ai jamais ressenti la même pression qu'à l'époque où je jouais à Resident Evil, il y a des mecs qui avancent vers moi, et à un moment j'entends une tronçonneuse au loin, je sais pas où est le mec. Et juste ça, je trouve que ça te montre juste la puissance du jeu en termes je te mets la pression.
Oui, mais voilà, c'est vraiment ça. Enfin,
tu flippes pas, tu stresses en fait.
C'est le jeu qui ne fait plus peur. Alors, pour être très clair, l'élément de peur dans Resident Evil, le 1, je suis désolé, il fait pas peur. Faut arrêter, c'est pas vrai. T'as quelques jumpscares comme ça, genre on fait sortir un... Tu vides enfin, la bombe de la mémoire,
il y a un visor, mais... Le truc le plus effrayant dans le 1, c'est que t'es pas très fort, en fait, surtout. C'est que ton personnage est faible.
Non, mais c'est t'as le côté très oppressant de l'environnement, parce que caméra fixe, parce que tu vois pas tout, parce que sauvegarde limitée, parce que munitions limitées, parce que vie limitée. Voilà, c'est le côté
survival du survival horror est largement assumé là-dedans, en fait.
C'est exactement ça, et je trouve que le 2 est un jeu qui fait plus peur, au sens où, effectivement, t'as vraiment des trucs complètement dégueulasses, et t'as vraiment des moments où je vais pas dire que t'as peur réellement, c'est pas de la peur, c'est quand même beaucoup plus du stress, mais t'as des moments très très stressants qui sont très difficiles à passer.
Alors moi, je trouve quand même que Resident Evil est plus gore qu'effrayant à l'heure actuelle.
Oui,
en tout cas, le 4, clairement, ça, hein, ça va plus dans le trashouille et le gore que le vraiment effrayant, au sens la peur.
La peur,
c'est genre peur psychologique, quoi.
Tout
tu
à
vas
fait.
Avoir peur du monstre, mais tu vas. Enfin, vraiment, à part le régénérateur, pour moi, est vraiment un ennemi flippant.
Oh putain, le régénérateur. Rien que d'entendre son espèce de respiration, machin. Putain, tu l'entends, je te jure, t'as des réflexes de fou. J'ai vu des gens avoir des réflexes complètement, craqués,
mais,
quoi.
Mais même moi, je l'ai vu, j'avais les mains moites, quoi. Je savais à quoi m'attendre, mais putain.
Ouais, voilà, Resident Evil 4 est un jeu impressionnant dans la mesure où il maintient. Enfin, c'est le jeu qui monte crescendo. On dirait. La comparaison va paraître un peu bizarre, mais s'il y a des gens qui sont des fans d'opéra ou de musique classique. Resident Evil 4 est conçu finalement comme un opéra, c'est-à-dire qu'il y a une montée en permanence de l'intensité finalement. T'as des paliers d'intensité, t'as des pauses et tout ça, mais c'est presque un opéra dans sa façon de composer son gameplay, ce qui est ultra impressionnant.
T'avais pas le gamin du château là, le boss final du château qui jouait de l'orgue ou un truc comme ça à un moment.
Oui, il joue de l'orgue avant de se transformer en gros monstre dégueulasse qui occupe toute la salle.
Ah oui, bon, ce boss est impressionnant.
Et voilà, et c'est le jeu qui effectivement te met constamment la pression. Je sais qu'il y a un truc qui est très impressionnant, c'est-à-dire que je crois que le village, j'ai dû le faire en une dizaine de segments à peu près. Le château qui doit être le moment d'après, je me souviens plus exactement du déroulement, mais en gros, le château, j'ai dû le faire en 7-8 segments.
Village, t'as les deux premiers chapitres, c'est village. Après, c'est le château sur deux chapitres à nouveau. Et le dernier, c'est l'île avec la base militaire.
Voilà. Et entre deux, il y a un passage dans les égouts, enfin dans les caves ou je sais pas quoi, pour aller justement à la base militaire, juste avant la base militaire.
Ouais, je sais plus.
C'est un passage assez court, voilà. Mais c'est, je crois que la base militaire, je l'ai fait en une traite.
Parce que... je crois que c'était le passage qui m'a le plus déçu dans le jeu. Trop bourrin et moins oppressant. En fait.
Bah, moins oppressant, certes, mais tellement bourrin que tu n'arrêtes pas. Le truc se bouffe d'une traite.
Ah, je me souviens que ouais, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me dire « Putain, je commence à manquer de munitions, là.
Ouais, »
J'ai des problèmes de balles.
Qu'est-ce que tu descends comme mec ?
Bah, je crois qu'il y a un passage où c'est ça, hein. C'est, t'as tout un passage, je crois, sur une des falaises de l'île où t'es aidé par un hélico et
défoncer des mecs à la pelle et le jeu ne relâche rien et t'es en perte. Et du coup, même si t'as des sauvegardes, t'as pas un moment de pause qui fait que tu peux te dire j'arrête, je vais aller faire autre chose. Non, t'es dedans et t'y vas, quoi.
Même pendant les cutscenes, hein, parce qu'il y avait quand même une sacrée quantité de QTE et un certain nombre de QTE, c'était ah, tu rates, bah t'es mort.
Pour ton cul. Tant pis pour toi.
Bah, le combat au couteau entre.
Oui,
entre Léon
couteau.
Et
bah,
Krauser.
Enfin, moi personnellement, il est peut-être légendaire. Moi, c'est la partie du jeu qui m'a le moins plu. Hein. Je trouvais ça chiant.
Je sais pas, les QTE, j'avoue, dans Resident Evil 4.
C'est pas la meilleure partie du jeu.
Non, c'était. Bah. J'avoue que c'est un peu loin pour vraiment me souvenir de l'utilisation, mais. C'était pas. À part, ouais, une ou deux cutscenes où, par contre, c'était un peu abusé, mais on sent que c'était assez anecdotique, quoi.
Voilà, on va terminer rapidement sur Resident Evil 5 et 6. Donc le 5, ce qu'il faut en retenir, c'est que...
Pour y avoir joué, alors moi j'ai bien aimé le 5. Très sympa à faire en coop.
Moi, c'est ce que
tu trouves pas l'IA qui est pourrie, en fait.
Le truc, c'est ça. Moi, ce que j'ai compris, c'est que tout seul, c'était chiant, et je confirme que tout seul, c'est assez pénible à faire, comme
voilà, jeu. Tu peux te plaindre de Ashley qui pourrait être considérée comme une mission d'escorte, mais Ashley, tu l'as pendant 50% du jeu, et
elle elle bouffe pas tes munitions et tes herbes. Voilà, quoi.
Le problème de Shiva dans Resident Evil 5, c'est que tu l'as pendant tout le jeu, et faut t'en occuper.
Oui, c'est un petit peu comme un petit animal de compagnie, c'est un familier, en fait.
Voilà, ça. Et ceci dit, le 5, donc, enfin... Regarde le gameplay du casque qui a été beaucoup reproché à une époque où on jouait à des TPS qui étaient déjà un peu plus souples. Moi j'y ai joué et je t'avoue que la première fois la démo j'avais pas apprécié du tout le gameplay. Et en fait avec le recul je le trouve assez... Le jeu il pensait autour de ce gameplay donc en fait ça passe une fois que tu commences à t'habituer. Mais c'est pas fondamentalement un mauvais jeu. Enfin, il est meilleur que le 6 déjà.
Alors moi le 6 la seule chose que j'aurais à en retenir c'est que tu tailles une pipe à un homme girafe.
Ouais, voilà. Mais le 5 est aussi connu pour avoir déclenché des premières polémiques sur le racisme, enfin, une première grosse polémique sur le racisme dans le jeu vidéo. Parce que le 5 se passe en Afrique, noir. Forcément, et ben, les mecs que tu butes sur place, c'est des noirs. Ben, bon, même si c'est désinfecté et que globalement ils ont perdu toute l'humanité à ce stade, les gens se sont plaints que dans Resident Evil 5, on est en Afrique et on tue des noirs, donc c'est raciste.
Bah c'est le rapprochement a été fait assez bêtement dans certains cas. Après
moi je trouve que c'était,
je sais pas, je la polémique est pas forcément totalement justifiée mais elle est pas non plus totalement injustifiée.
Bah moi je l'ai trouvé plus injustifiée qu'autre chose parce que malheureusement tu peux pas te permettre de foutre des mecs qui parlent espagnol en plein milieu de l'Afrique noire quoi. Ou alors,
non mais. C'est vrai, un coin reculé de l'Europe. Tout le monde parle espagnol. Ah bah ça doit être en Malaisie.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est un choix où, oui, effectivement, à un moment aussi, bah, tu décides de passer un contexte et effectivement, bah, oui, là-bas, ils sont tous de. Enfin. Ils sont comme ça, quoi.
Voilà, c'est. Enfin, pour avoir déjà fait pas mal de séjours en Afrique, oui, quand t'es blanc en Afrique, tu te sens un peu en minorité, ça fait bizarre.
Ça, hein. Donc, enfin, c'est comme si tu te plaignais que tu butais des jaunes dans un Dynasty Warrior, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu.
Après, je pense que le plus gros problème, c'est que c'était un blanc qui butait des noirs. Ce serait globalement ça.
Mais je pense.
C'est pour ça qu'ils ont rajouté Shiva.
Il y avait un petit, il y avait quand même enfin, il y avait quand même une espèce de malaise. Alors, pas forcément justifié. Je dis pas que je suis d'accord avec la polémique tout ça. Je pense qu'effectivement, on aurait mieux fait de rien dire sur le sujet. Il y avait, à mon avis, pas de quoi fouetter un âne. Mais il y avait quand même un côté un peu gênant, je trouve.
Oui, non, bah clairement, on est encore à un stade où le jeu vidéo, même à l'heure actuelle d'ailleurs, a du mal à assumer ce genre d'aspect et essayer de rester encore un peu politiquement correct et lissé pour,
voilà, mais
pour rentrer dans le moule.
La vraie question qu'il faut se poser, c'est si ça avait été un film, est-ce que ça se serait passé comme ça? Je pense que ça aurait eu du mal à passer aussi.
Certes, j'avoue que j'ai pas d'exemple de film en tête où il y a ce genre de situation.
Ben, moi non plus, mais c'est pour ça que je me dis, si ça avait été un film, est-ce que par hasard il aurait pas été, il se serait pas fait bâcher, refusé d'être diffusé en salle, ce genre de conneries-là, c'est pas impossible.
Il y aurait sûrement eu des trucs comme ça aux États-Unis.
Forcément eu quelque chose, parce que il y avait quand même, je suis d'accord avec toi, c'est une polémique un peu conne, mais il y avait quand même un côté très, je trouve, malsain.
Dans l'état actuel de la, on va dire la façon dont le racisme est géré à l'heure actuelle dans le monde, c'est très difficile de sortir une œuvre comme ça en disant ben effectivement ces zombies ils ont une peau noire, mais les gens, ce qu'ils voient à l'écran, c'est un blanc qui tue des noirs, donc
c'est des zombies, les gars, c'est pas vrai, voilà, mais c'est très très compliqué d'arriver à faire passer.
C'est compliqué d'expliquer ça aux gens, en fait, c'est quoi la limite entre l'homme et le zombie déjà, donc.
Bah voilà, je comprends qu'un regard extérieur qui ne connaisse pas du tout le truc soit choqué.
Ouais, moi j'ai toujours trouvé ça un peu triste qu'on soit attaqué sur ce point-là dans le jeu, tu vois.
D'accord.
Mais bon ça a été fait et c'est passé loin, quoi. Enfin, voilà, mais c'était pour dire quand même que Resident Evil 5 avait quand même déclenché ce type de réaction donc à l'époque de sa présentation, donc ça devait dater quand même de 2007-2008.
Oui, c'était les toutes premières présentations, d'ailleurs.
Voilà. Et après, on a eu 6.
Sur lequel nous ne nous étendrons pas, parce que...
Bah, enfin, j'ai fait la démo, et à part la partie de Léon, qui était à peu près sympa, j'avais l'impression de jouer à Gears of War, quoi.
Bah, moi, il y a eu Resident Evil Revelations entre deux, qui était, on va dire, bien, mais pas top.
Tu regarderas quand même, Capcom n'a pas sorti de Resident Evil 7, il a sorti un Resident Revelation 2.
Oui, tout à fait. Qui d'ailleurs, j'ai compris, est pas terrible non plus.
Ouais, mais ça en dit assez long sur l'image qu'ont les gens de la série à l'heure actuelle.
Ouais, je pense aussi qu'effectivement, c'est une série qui s'est beaucoup dégradée. On va peut-être terminer sur un petit conseil, parce que là, il va quand même falloir qu'on enchaîne sur le sujet suivant si on veut en parler au moins quelques minutes.
Ouais.
Resident Evil 4 sur Wii, c'est la version définitive.
En tout cas, en termes de maniabilité, c'est clairement celle que tu des autres. Après, si vous voulez plus l'aspect visuel, il y a les versions HD.
De Resident Evil 4?
Ouais. Mais pas de gimmick à la Wiimote. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils aient pas fait le... J'ai pas ajouté le contrôle de Wiimote sur les textures HD pour la version Wii U, ça aurait été un peu mieux, mais bon.
Oui, ça aurait pu être intéressant, mais voilà, donc il y a Resident Evil 4 qui sort sur... donc qui ressort en console virtuelle Wii
demain.
C'est la version probablement la plus complète.
Enfin, en gros, c'est globalement, au niveau visuel, la version GameCube était censée être la meilleure à sa sortie. T'as les bonus de la version PS2 et t'as la maniabilité à la Wiimote... Qui rend le jeu plus souple, tout simplement.
Et le jeu tourne en 16:9, 480p, donc avec
ça reste un bon choix si vous l'avez pas fait, quoi. Si vous avez une Wiimote, une Wii U, une Wiimote sous la main et un Nunchuk, c'est un très bon choix pour découvrir le jeu.
C'est un très bon choix. Le remake HD du remake GameCube est sorti récemment, alors sur donc PS4, Xbox One, peut-être PC, je suis pas sûr.
Je pense qu'il est sorti sur PC, à vérifier.
Il y a plusieurs versions qui existent de ce jeu-là. Donc il y a la version GameCube
sorti sur Wii aussi. Hein, de voir.
Il est sorti sur Wii. Alors le truc, la version GameCube tourne en 4/3. Et nous en Europe, on avait une version 60 Hz certes, mais entrelacée, donc d'un peu moins bonne qualité. La version américaine tournait en 480p, donc en progressive scan, ce qui est quand même beaucoup mieux. La version Wii tourne en Europe en 480p, avec une option 16:9, mais qui malheureusement a tendance à écraser un peu à couper en fait les décors précalculés.
C'est un problème, voilà, avec les décors précalculés, c'est qu'ils sont faits pour être vus avec un certain ratio, comme pour les films en fait. Ah, hein.
Ouais, voilà, là, c'est le ratio d'origine.
C'est le ratio d'origine, et passé en 16:9, tu perds un peu.
Je sais que le remake HD a le même défaut, c'est-à-dire que tu as le choix entre garder du 4/3 jouer sur du 16-9 mais en l'écrasant, jouer sur du 16-9 en le coupant, jouer, enfin voilà.
Idéalement, je veux plutôt en 4 tiers. Hein.
C'est vraiment des jeux un jeu qui a été fait pour le 4 tiers. Je pense que c'est une expérience qui vaut le coup. À mon avis, ça vaut pas forcément beaucoup le coup de faire les autres. Alors peut-être Code Veronica, je me permets pas de juger sur celui-ci parce que je sais que c'est le préféré de beaucoup. Et malheureusement, j'ai pas assez joué pour être capable de vous dire si c'est bien ou pas.
En termes de scénario et d'épisodes importants, il y a le 2 de toute façon qui. Enfin, peut-être motivé, le 2 à mon avis est à faire si vous avez bien aimé le premier. Parce que ça reste, je pense, l'épisode de sortie sur PlayStation. Je crois que c'est le plus populaire. Hein. Enfin, pas loin.
C'est le plus vendu, une sorte de PlayStation.
Ouais, je crois que c'est un des plus appréciés, hein, le 2. Donc. À faire et après ouais, bah, les autres c'est si vous voulez aller à fond je pense moi bon, j'avoue que je suis pas un spécialiste de Resident Evil là hein. je vais pas juger
non, moi non plus enfin je connais voilà. Bien les jeux pour tout un tas de raisons et notamment parce qu'il y a une grosse scène speedrun autour et que c'est un truc assez intéressant à suivre mais voilà je pense qu'effectivement le remake GameCube ou le remake HD puisque ça vaut le coup à mon avis de le faire. Resident Evil 4 de toute façon faites-le. Certes, ça a un petit peu vieilli, mais ça reste quand même un jeu exceptionnel. Parce que je crois que c'est celui dont on a parlé le plus longtemps, donc ça vous donne quand même une petite idée de la qualité du titre. Et après le reste, bah, on va dire que c'est à l'appréciation de chacun.
Voilà, le 5 est une bonne expérience, mais je le conseille plus avec un poste sur le canapé et des pizzas et des bières. Moi je l'ai fait comme ça, c'était très bien.
Voilà, je pense qu'effectivement, moi je l'ai fait tout seul. Enfin, j'en ai fait une petite partie tout seul et ça m'a très très rapidement saoulé. Je pense qu'avec un pote, ça doit beaucoup mieux passer.
Voilà.
Bref, on va s'écouter une autre musique de Super Turrican.
Ouais.
Qui est la musique du stage 3. Toujours sur Super NES. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes et on discutera de petites culottes.
Ouais!
Et nous voilà de retour avec effectivement Contra 4 sur DS puisqu'on discutait de Run and Gun.
Voilà. Mais ouais, Contra 4 sur DS, parce que c'était par Way Forward en plus, les mecs qui ont fait Shantae.
Ouais, mais c'est bien. Mais Contra, c'est très bien, il faut jouer à Contra.
Mais ouais, j'avais bien aimé hein, le 4.
Mais faut faire le premier sur NES, c'est le seul qui vaut le coup. Parce qu'il est hardcore.
Bon, bref. On doit parler de
petites culottes. Alors, il y a une polémique récente qui a émergé suite à la sortie de Project Zero Maiden of the Black Water.
La prêtresse de l'eau noire.
La prêtresse des eaux noires. Qui est un jeu qui, alors que malheureusement, dont nous ne parlerons que à travers cette polémique parce que il n'est pas encore sorti, la démo n'est pas sortie et tout ça.
Personnellement, moi j'ai fait le Project Zero 4 sur Wii.
Dans 2.
Un été, je crois qu'il y a 2-3 ans. Un
Project
été.
Zero 2.
Non, ils ont sorti le 4 uniquement au Japon.
Tu l'as donc eu en émulateur.
Et traduit en français.
Oh. Petit cochon.
Ouais, c'était pas mal. Mais oui, effectivement, il y a le 2 que j'avais pas touché.
Alors, le Project Zero en soi, bon, je sais pas, le jeu a l'air d'avoir pour l'instant des avis relativement mitigés.
Ouais, mais je crois que c'est pas une série qui est considérée comme un summum du survival horror. C'est, moi, pour avoir fait le 4, j'ai bien aimé quand même l'ambiance très sympa, pour le coup, plus dans la. Bon, un peu dans les jumpscares, mais plus vraiment dans l'ambiance oppressante. Bon, t'as un personnage qui est vraiment très faible pour le coup, parce que tu te bats avec un appareil photo. Mais oui. Ouais, on est plus dans la frayeur et la peur de l'inconnu.
Voilà, on ne balance pas l'appareil photo sur des zombies, hein. Ça ne fonctionne pas. On prend
c'est des fantômes,
des
d'ailleurs,
fantômes.
Y a pas de zombies. Hein.
Y a pas de zombies, et mais c'est un jeu pas voilà, enfin bon. La polémique est apparue récemment parce que dans la version japonaise du jeu, il y a une tenue affriolante pour chaque héroïne, mais qui est franchement... Enfin, c'est quand on dit affriolante, on rigole pas, quoi. C'est pas...
Globalement, c'est ce que mettra ta copine lorsque tu iras avec elle au lit, quoi.
Et oui, quand elle est dans un très bon jour, hein. Dans un très 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 bon jour.
Ah, c'est ça.
Et en Europe, on les a pas. C'est-à-dire que pour la version occidentale, on va dire que le jeu sort aux États-Unis seulement en dématérialisé, d'ailleurs, je précise, et en Europe. Eh bien, aux États-Unis et en Europe, il y aura pas les petites culottes, il y aura pas les porte-jartelles, il y aura pas les soutiens-gorge pigeonnants. Tout ça, on n'aura pas. Nous, on a le droit aux costumes Zelda, aux costumes Samus, qui sont totalement hors sujet.
Bon, le costume Samus c'est quand même moulant à la base. Mais...
Le costume Samus c'est un peu moulant, mais enfin voilà. Mais surtout, on n'a pas le droit aux petites culottes, et donc il est né une espèce de polémique aux États-Unis avec d'un côté les gens qui disaient mais attendez pourquoi on n'a pas le droit aux petites culottes, c'est quoi ce bordel, et de l'autre qui disait mais de toute façon c'est encore de la, enfin pourquoi on n'a pas le droit aux petites culottes, c'est de la censure éhontée de Nintendo qui veut pas que Sikomi, et un autre camp qui dit attendez les petites culottes c'est quand même un relativement vulgaire. Je suis assez d'accord sur ce point-là. Et deux, c'est très 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 japonais d'avoir ce genre de choses-là, et je comprends que culturellement parlant, ça passe peut-être un peu moins bien en Occident.
Ouais. Ouais. Bah, surtout qu'en plus, aux États-Unis, je pense que ce genre de polémique, ça vient aussi avec toute l'histoire du Gamergate et des Social Justice Warriors qui se foutent la gueule, parce que c'est typiquement le genre de sujet pour lequel il y avait des polémiques là-bas. Pas aider.
Bah, oui, c'est-à-dire que effectivement les contenus racistes, les contenus sexuels, les contenus machin, ça fait forcément, ça fout la merde.
Voilà.
Maintenant, est-ce que Nintendo a pas jeté un peu d'huile sur le feu en virant le truc ? C'est-à-dire, s'il l'avait laissé, est-ce qu'il y aurait eu une polémique aussi ?
Bah oui, clairement. Enfin, il y en aurait eu une parce que t'aurais eu. Bah en fait, ça aurait été inversé. Hein.
Oui, ça aurait été les associations féministes qui disaient ah c'est pas normal, on conduit une jeune fille qui est même pas de chaussures mais qui est.
Ouais, surtout qu'elles ont, elles ont quand même des tranches d'adolescentes, donc ça va être pas trop. De mémoire, je sais plus si elles sont adolescentes ou pas, mais enfin bon, voilà. Mais enfin, moi, la polémique elle me passe un peu au-dessus de la tête parce que dans d'autres cas, je trouve les costumes ont absolument aucun sens. Enfin, ils sont complètement hors sujet avec le propos du jeu, quoi. C'est vraiment juste du fanservice dans les deux cas.
Pas de, ah, la même de toute façon, voilà, les costumes Samus et Zelda, clairement, c'est du fanservice.
Voilà, et puis les petites tenues, c'est pour faire plaisir, aux mecs japonais. Hein.
C'est pour faire plaisir aux otaks japonais. Maintenant, c'est vrai que le fait de l'avoir retiré. Surtout que Nintendo a pas donné officiellement d'explication en disant voilà, l'explication qu'on aurait pu dire c'est de, écoutez, c'est culturel, voilà, on comprend qu'en Occident c'est le genre de trip qui est pas forcément alors qu'au Japon c'est beaucoup mieux accepté, donc voilà. Là, il y a même pas eu d'explication officielle et du coup, c'est vraiment parti en couille, quoi.
Ouais, bon, je pense que déjà demander une explication officielle sur un produit, en plus c'est même pas considéré que c'est de la censure parce que c'est Nintendo qui décide quand même de, enfin c'est un jeu Nintendo, et Nintendo l'adapte à son marché occidental. C'est pas de la... enfin, pour moi, c'est pas de la censure, c'est pas une bonne utilisation du terme, quoi. Alors, c'est de l'adaptation, à la limite, c'est la localisation.
Oui, voilà, mais la question, c'est est-ce que
la censure, c'est pas le bon terme, je suis
désolé. Est-ce que c'est de la censure ou est-ce que c'est de l'adaptation ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils l'ont enlevé parce qu'ils considèrent que contenu sexuel, tout ça, on enlève ? Ou est-ce que c'est effectivement de l'adaptation culturelle ? En disant voilà, le coup de se balader en petite culotte dans un manoir hanté, ben, au Japon ça passe bien parce que effectivement voilà, c'est le genre de truc qui est très très japonais, et en Occident on considère que ça passe pas, on enlève. À ton avis, toi t'as plutôt l'air de dire que c'est pas vraiment de la censure.
Bah déjà faut, je pense qu'on utilise beaucoup le terme censure sur internet pour des choses qui n'en sont pas, parce que censure ça reste quand même de retirer arbitrairement un contenu, un élément pour le masquer. Donc là, on peut dire, effectivement, on pourrait dire que c'est de la censure. Maintenant, ça porte pas atteinte au jeu en lui-même. Enfin, ça reste toujours un jeu d'horreur où, quand même, t'es censé plus flipper que de mater la gonzesse. Enfin, bon, je suis désolé. Il y a surtout ça.
Sauf si tu fais du high score, quoi.
Ouais, mais globalement, ça porte pas atteinte à l'œuvre en elle-même, quoi.
Ça, je suis d'accord. Je précise, ça reste des costumes bonus. Qu'on ne débloque que sous certaines conditions qui me semblent d'ailleurs sont, c'est pas juste finir le jeu, c'est finir le jeu avec un certain score ou sous un certain temps, enfin c'est pas évident à choper déjà.
Voilà.
Mais donc toi, t'es clairement du côté du... ça ressemble beaucoup plus à de l'adaptation culturelle qu'à de la véritable censure, au sens, effectivement, enlever arbitrairement un contenu...
Bah, en fait, c'est, ça apporte pas intégral... Enfin, en fait, ça aurait été, moi, je pense que ça aurait été un problème si, effectivement, ils avaient retiré une scène du jeu où la fille était nue, où elle avait cette tenue. Mais que c'était une scène importante dans le jeu, ou en tout cas qu'elle avait sa place. Là, on peut considérer que c'est de la censure, à mon sens. Là, c'est vraiment du bonus. Moi, je pense que les gens se plaignent pour trois fois rien, quoi. C'est juste histoire de se plaindre pour se plaindre. Il y avait eu la même type de polémique avec des DLC de Fire Emblem, où t'en avais un où tu voyais deux héroïnes en maillot de bain. Il y en avait une, en fait, t'avais globalement un plan sur ses fesses. Bah, t'es en maillot de bain, tu vois. Et sur la version américaine, ils ont foutu une espèce de voile un peu moche à l'arrache sur Photoshop. Ouais, enfin, moi je trouve ça débile parce que c'est moche, en fait. C'est surtout ça.
C'est vrai que
c'est... Mais en Europe, ils l'avaient pas fait, tu vois, bizarrement. Mais en Europe, on avait toute l'image.
J'ai pas... Non, mais en Europe, j'ai l'impression que Nintendo of Europe est... Enfin, en Europe, on a toujours une position un peu privilégiée par rapport aux produits qui viennent du Japon. Parce que en Europe, on est très nipponophile, j'ai envie de dire. Je sais pas si le mot existe.
C'est plus en France. En Angleterre, ils sont clairement du goût d'américain. Hein. Je sais pas dire pour l'Allemagne, mais c'est vrai que les pays latins ont une
certaine culture du Japon et
un passif de toute façon aussi avec la culture japonaise.
Avec la culture japonaise. Et c'est vrai que c'est énormément les pays latins. Je crois me souvenir par exemple que les jeux Dragon Ball. Sur Super NES, par exemple, donc c'est pour dire que ça remonte à loin, ils sont jamais sortis aux États-Unis, sont sortis au Japon, sont sortis en Europe, et en général, ils sont sortis au Portugal, en Espagne, en Italie, en France.
Je crois qu'en plus, aux États-Unis, Dragon Ball, ils l'ont pas eu avant la fin des années 90, donc...
Oui, ça a été très long, mais même les jeux Sailor Moon ne sont jamais sortis... Enfin, sont rarement sortis en dehors du Japon, mais ils sont sortis en Europe, alors qu'aux États-Unis...
Ouais. Enfin, pour revenir à cette histoire de... On va dire de modification du contenu pour le marché occidental. Bon, déjà, on sait qu'aux États-Unis, ils sont quand même un peu plus puribonds sur tout ce genre de choses.
Coincé du cul, on dit.
On peut dire ça comme ça. Bah, en fait, tu pourrais regarder, par exemple, Binding of Isaac Rebirth, qui a mis énormément de temps à sortir chez nous à cause des contenus dits religieux que Nintendo voulait éviter. Donc, ouais, c'est pas surprenant qu'ils l'adaptent. Hein. Pour avoir discuté avec, quand je travaillais au Louvre avec un. La personne qui se charge de l'adaptation de Pokémon pour le marché européen, il me disait, mais ils nous envoyaient parfois les designs des personnages, on leur disait si c'était adapté oui ou non à notre marché. Donc je pense qu'aussi ça fait partie de cette démarche là de dire, comme tu l'as dit, ben, c'est culturel pour les Japonais, ok, mais c'est vrai qu'en Occident ça passera pas. Donc je pense que c'est aussi un choix comme ça.
Enfin, effectivement, je comprends ce que tu dis par rapport à la censure, c'est-à-dire si dans le jeu et dans l'histoire du jeu, il y avait, je sais pas, une scène de jeune fille dénudée pour une raison scénaristique, parce que j'en sais rien, enfin on peut tous imaginer, et que cette scène-là avait été supprimée ou que la meuf s'était retrouvée complètement habillée, voilà, ça aurait été gênant. Parce que ça aurait vraiment été de la censure, au sens, effectivement, on a altéré le contenu réel du jeu, de l'histoire, de la progression, du sens du jeu ou de sa signification, pour des raisons qui sont probablement de mauvaises raisons, à savoir la pudibonderie américaine.
Voilà. Sachant qu'on est par mois après, là où ça peut être un peu une excuse, c'est quand même qu'on est un jeu qui est 18+, quoi.
Mais c'est pour ça que moi c'est ça qui me gêne un petit peu, c'est que dans un jeu
18+, j'avais oublié ce détail.
Dans un jeu 18+, t'es sûr qu'il est 18+, c'est pas 16+?
Bonne question.
Je me permets d'aller vérifier.
On va aller jeter un coup d'œil.
Je me permets d'aller vérifier parce que c'est un point qui peut être important. Alors j'essaie de pas faire trop de bruit avec mon clavier, je suis désolé, jeune.
Alors 18+ pour l'Europe. Ah. Et je sais pas pour les États-Unis. Ils ont pas le même classement. Je sais pas s'il est M ou pas. Pas les États-Unis, ouais. Voilà.
Je sais pas s'il est M, ouais.
Mais rated M pour mature.
Il est 18+. Je m'attendais pas à ce qu'il soit 18+. Moi, j'aurais plus pensé que. Enfin, bref.
C'est pas trop. Ouais, moi, tu sais qu'ils sont. Ben ouais, non, bah après, c'est dur. Je pense qu'on aura jamais le fin mot de l'histoire parce que Nintendo, dès qu'il s'agit de.
Ouais, de ce genre de choses-là.
De ce genre de choses sont assez secrets. Bah, suffit de voir le mec qui s'est un peu fait virer pour avoir dit dans un podcast que, ben ouais, en fait, les jeux, on les localise en fonction de la thune qu'on peut avoir avec.
Oui, alors que pourtant, c'est une réalité du fonctionnement d'une entreprise. Hein,
grosse nouvelle au pays des bisounours.
Oui, il n'y a pas de quoi être choqué. Enfin, voilà, si les mecs espéraient pas du tout vendre du Fire Emblem, ben, ils le localiseraient pas. Alors,
Ah bah, mais c'était assez intéressant ce qu'il avait dit par rapport à Xenoblade d'ailleurs à l'époque. Comme quoi, ils y croyaient pas du tout aux États-Unis et que c'est l'Europe qui a pris sur eux pour tout financer.
Oui, mais voilà, mais après, il y a des. J'ai l'impression que la direction de Nintendo of Europe est un petit peu plus ouverte.
C'est un japonais qui dirige Nintendo of Europe déjà.
Bah, déjà.
Donc ça doit aider pour ce genre de jeu.
Mais je pense que oui, c'est typiquement le genre de truc sur lequel ils sont un peu moins frileux parce qu'ils savent qu'il y a un vrai public pour ça et que s'ils font l'effort, il y aura une réponse derrière du public et que ce sera pas zéro.
Et dans le cas de Xenoblade, je pense qu'ils ont été récompensés vu à quel point les États-Unis se sont bougé le cul pour localiser le suivant. D'ailleurs, il y a des termes qu'ils ont changés, j'ai pas trop. Enfin, j'ai vu les changements par rapport à la version japonaise, ça va pas être terrible, je crois.
Ouais, mais ça, de toute
Ce sont des petits
façon.
changements. Mais ouais, il y aura toujours les adaptations dans les jeux, qu'on le veuille ou non. Je sais que, enfin, il y a eu, enfin, voilà, donc je parlais de la polémique pour Fire Emblem, pour l'espèce de polémique. Qui était moins importante, mais je sais qu'il y avait des gens effectivement qui s'étaient plaints que ouais, bah voilà, il y a eu de la censure, des dialogues où à un moment on parlait des fesses d'une des héroïnes,
Oui, il y a eu
au
ce truc
final on
en fait.
parlait de ses cheveux, enfin, j'étais là, c'est ridicule quoi.
Alors je suis d'accord, c'est assez ridicule comme. Mais ça, enfin, c'est assez ridicule parce qu'effectivement, voilà. Mais pendant ce temps-là, je rappelle que Castlevania Judgment, qui est un excellent jeu, hein, comme tout le monde le sait.
Comme chacun sait, mais bon, en soi, après, c'est le truc qui sauve le jeu. Et encore.
Ça vaut pas de l'avoir juste pour la bande son. Où il y a un
Non,
moment dans le
il y a
passage du
YouTube pour ça.
mode,
Il y a
voilà,
YouTube pour
il y a
ça.
un passage du mode scénario où il y a une meuf qui dit, oh là là, mais tes nichons, ils sont tellement gros. Et ça, c'est passé comme une lettre à la poste, alors que franchement, c'est juste ridicule, quoi. Dans le meilleur des cas, je veux dire, c'est ridicule. Mais c'est
Ouais,
vrai
je sais.
que Nintendo a un lourd passif en termes de censure.
C'est ça. Mais enfin,
Et
oui,
c'est peut-être
on.
ça aussi qui a fait tiquer. C'est-à-dire, je suis pas certain que si Project Zero avait été une exclusivité PS4 et qu'il s'était passé la même chose, alors déjà, est-ce que Sony aurait censuré de la même manière? Probablement.
Je
Parce que
pense
je pense
que
que c'est quand
je
même de
pense
l'adaptation
que
culturelle.
oui je enfin, je pense que Nintendo est un petit peu plus comment dire un peu plus la main lourde sur ce genre de choses à cause de son image grand public on va dire et familiale.
Alors, peut-être, mais je suis à peu près. Enfin, autant le coup de. On parle de ses fesses au lieu de parler de ses cheveux. Je pense qu'un Sony l'aurait laissé passer,
Ouais.
clairement. C'était vraiment un peu ridicule en termes d'adaptation. Enfin, voilà, ça coûtait quand même pas grand-chose. Autant les petits dessous, je suis pas sûr que
C'est
Sony l'aurait laissé passer.
à voir, franchement, c'est à voir, mais
J'ai pas en même temps de contre-exemple flagrant dans lequel, effectivement.
j'ai pas d'exemple en
Voilà.
tête non plus.
J'ai pas d'exemple en tête, mais pour moi, effectivement, c'est vraiment de l'adaptation culturelle. Le coup de Fire Emblem, c'était ridicule. Là, c'est vraiment de l'adaptation culturelle.
C'était ridicule parce que c'était mal fait dans certains
Et
cas.
en plus, oui, c'était.
Je sais
C'est-à-dire
que
que.
Bravely Default en a eu aussi sur un des costumes. Franchement, on me l'aurait pas dit, je l'aurais jamais su.
Mais voilà, mais pour moi, ce qui est bien fait, c'est ça, c'est que finalement, quand tu fais le jeu et que tu te rends pas compte qu'il y a eu une espèce d'atténuation de quelque chose, c'est que finalement, ils ont peut-être bien fait de l'atténuer parce que c'était pas très utile. Mais voilà, j'ai l'impression qu'effectivement, la polémique est montée parce que c'est Nintendo, parce qu'il y a un lourd passif en termes de
Ah oui,
censure,
non, clairement, mais.
mais que si ça avait été un autre, ça serait passé comme une lettre à la poste.
Ouais, c'est ça, mais en plus, je sais déjà que les costumes. Enfin, les costumes, quand ils ont été montrés au Japon, ils étaient pas passés inaperçus. Hein. Bon, le jeu est sorti il y a un an au Japon, mais c'est vrai qu'ils ont montré les costumes en petite tenue, et. Déjà, à ce moment-là, ça en avait parlé, quoi.
Effectivement. Ben nous, on va se quitter sur ces mots. C'était une émission fleuve, j'ai envie de dire, comme
On a encore
d'habitude.
fait 1 heure et demie.
On a encore fait 1 heure et demie, donc 2 fois plus que la durée prévue à
Comme
l'origine.
quoi, à deux, on est toujours aussi efficace.
Voilà, on ne remercie pas Méduse, hein, de sa présence.
Sûrement en train de repeindre quelque part.
Je ne sais pas ce qu'il fout. Voilà, je ne sais pas ce qu'il fout. C'est vrai que c'est pas son genre de rater des émissions, même si ça lui arrive de temps en temps.
On a
Je
déjà
pense
tout
qu'on
fait.
aura une explication demain matin qu'il aura été faire une sieste à 19h30, ce qui est vraiment le bon moment pour faire une sieste. Nous allons nous quitter avec la citation du jour, qui, une fois n'est pas coutume, donc, est de
Hidema
Hideo.
Kojima.
De Hideo Kojima. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on cite Hideo Kojima dans cette émission,
J'aime beaucoup.
mais il le mérite. Il le mérite, je pense, amplement. Donc, Hideo Kojima, encore une fois, nous n'avons pas le contexte. Hein. Je suis désolé, la citation est un petit peu sortie comme ça. L'infiltration, c'est comme la sodomie, une fois que t'es rentré, c'est bon. Voilà. Je ne...
Tu peux pas censurer ce passage, là, je pense que c'est pas adapté au public occidental.
C'est pas adapté au public occidental. C'est vrai, on est un petit peu vache. Bref, merci beaucoup Antix d'avoir co-animé du coup cette émission avec moi.
C'était très sympa.
On était que deux. C'était, moi je me suis bien amusé, en tout cas j'espère que vous vous êtes bien amusé derrière le micro, ça ne veut rien dire.
Voilà. Ben ouais,
c'est pas grave. Nous on se retrouve dans deux semaines, peut-être avec notre camarade antique, je ne sais pas, mais il y a de bonnes chances.
On verra, déjà en fonction de ce qu'on va faire dans deux semaines.
En fonction de ce qu'on va faire dans deux semaines, en tout cas on se retrouve dans deux semaines. Salut tout le monde!
À plus!